Passe Génie sur Europe 1.
16h-18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver jusqu'à 18h30. Avec vous aujourd'hui, François Renucci, Florian Gazan, Christophe Beaugrand, Titoff. On attend Christophe de Chavannes qui devrait arriver.
Ou pour une fois.
Mais celui qui est de retour, c'est Olivier de Kersauzon.
Vous avez manqué.
Ah, je suis sûr que la météo de notre métropole vous a manqué là-bas, n'est-ce pas, en Polynésie, cher Olivier de Kersauzon.
Je sais même pas de quoi.
Rappelez-vous, il y a un micro à la radio.
Je vous
le dis pour le futur.
Bon, je parle dans le micro.
Ah, alors, merci, Olivier.
Qu'est-ce que tu veux savoir?
Quel temps il faisait là-bas en Polynésie?
Magnifique.
Comment va votre épouse?
Très bien.
Alors, comment ça se passe? Pardon de vous poser des questions.
Ben, tu peux y aller. Ouais.
Mais j'en profite sur nos dernières semaines ensemble.
Découvrons-nous enfin.
J'aimerais en savoir plus. Le matin, par exemple, quand le soleil se lève, vous êtes tous les deux main dans la main sur la plage avec vos tongs.
Moi, je suis levé avant le soleil et je suis parti à la pêche en général vers 4h du matin. Ouais.
Ah ouais, vous allez à la pêche à 4h du mat?
Ouais.
Mais qu'est-ce que vous pêchez?
Quel intérêt?
Je pêche le thon.
Des poissons, non?
Ouais, des poissons, souvent.
Et tu reviens vers
le thon, le maïmaï, l'espadon, voilà. Je rentre vers 15h à peu près.
Ah bon, de 4h à 15h, vous êtes parti pour pêcher le thon?
Ça sent la Libye, ça.
Non, pas toi.
Ça sent la Libye, ça, 4h, 15h, j'y crois pas.
Il reste au studio. On sort pas de ce métier parce qu'à d'ailleurs tu ferais rien.
c'est pas mon intention.
Non, mais il a un peu raison, Gazan. Franchement, l'après-midi pour pêcher le thon, je veux dire, Benichou et Titoff.
Nous, dans un quart d'heure, l'histoire est faite. Hein. Ouais. Mais dis-moi, mais tu pars tout seul ou tu pars avec Stevie pêcher le thon?
Toujours seul.
Toujours seul.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps, maman?
Ah, vous l'appelez maman?
Je sais pas, je connais pas son prénom.
Moi non plus, j'ai oublié.
C'est quoi son prénom? Elle a un
prénom. J'ai gardé le Paris Match, mais je vais le retrouver.
Elle a un prénom de là-bas?
Ouais, puis elle a quand même fait du karaté pendant 11 ans, donc je crois que tu vois.
Ouais, mais ça va, c'est loin, c'est à 25 heures d'avion, il y aura
non,
pas de
elle arrive le 24.
Ah, mais.
Je l'adore.
Sandra, c'est ça?
Voilà, s'appelle... Sandra. Ouais, oui.
Sandra, elle s'appelle Sandra.
Quand on se marie à Tahiti, la lune de miel, on l'a fait à Dunkerque?
C'est Maubeuge Nord.
Bon, elle est assez embêtée, Olivier, on a Guillaume au téléphone qui patiente. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Laurent.
En fait, des rêves. Ah, ben non, mais on va. Ah, merde, alors évidemment, ça marche plus ce téléphone. Parce que Christophe n'étant pas arrivé, ça concernait Christophe de Chavannes. Bon, ça fait rien, racontez-nous quand même.
Oui, donc j'avais envoyé un mail avec un des rêves débiles que je fais, parce que je fais des rêves assez débiles de temps en temps. Et dans le dernier, il y avait Christophe de Chavannes. Donc à la base, j'étais dans une voiture avec un pote à moi, mais en fait, c'était Pascal Légitimus. Mais je savais quand même que c'était mon pote. On était dans une grosse voiture noire et on tombe au fond d'un port. Et la voiture commence à couler tout doucement. Et là, je me suis rappelé de ce que nous avait dit Christophe dans une ancienne émission. Il nous avait dit que pour sortir une voiture qui coule, il fallait péter le pare-brise avec les deux pieds. Donc, j'ai commencé à pousser. Et puis finalement, je me suis dit que ça ne servait à rien. Je suis passé par la fenêtre. Donc finalement, je m'en suis sorti sans séquencer à lui.
Vous êtes toujours vivant, en fait.
Toujours très vivant, ouais.
Mais c'était un rêve, hein, Laurent. Hein, donc, il n'est pas vraiment tombé dans l'eau avec Pascal Légitimus. C'était non, un rêve, dire, donc il est toujours vivant.
Dans le rêve, il est toujours vivant.
Ah,
et Légitimus, il est toujours vivant, lui, dans le rêve ou pas?
Non, après il s'était transformé, il était redevenu mon pote, et on était autour d'un plateau de fruits de mer, il y avait Bruno Salomon.
Qu'avec des gens connus, vous faites des rêves, vous?
Non, mais par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait Gérard Miller qui puisse m'expliquer, parce que je fais tout le temps des rêves un petit peu tarés, et quand je regarde les...
Pas de menace.
Eh bien, Guillaume, cela exprime chez vous une certaine frustration, effectivement, vous êtes sans doute très seul dans votre existence, et vous allez mourir jeune, voilà. C'est une excellente journée.
Mais je crois qu'Olivier de Kersauzon peut vous donner d'autres conseils pour sortir d'une voiture qui a plongé dans l'eau.
Si t'as plongé dans l'eau avec ta bagnole, tu fais rien, t'en fous. Hein. Tu pètes le pare-brise et puis voilà. Qu'est-ce
non, faut pas sortir.
Bah, faut pas sortir.
Non, ça fait plaisir.
Lequel parle?
C'est incroyable.
Qu'est-ce qui se passe?
Ça fait plaisir aux poissons de
ça,
te
c'est
voir.
Beau grand, là.
C'est du double vitrage. Bon, vous remercie, Guillaume.
Merci beaucoup.
On transmettra à Christophe s'il arrive. Apparemment, il n'a pas réussi à péter le pare-brise non plus.
C'est pas gagné, là.
Ma petite amie Camille fête ses 25 ans ce mardi 10 juin. Et normalement, elle est dans le public. Elle est fan inconditionnelle. Oui. Ah, ben, elle est là, Camille.
Elle est jolie.
Et voilà, elle adore Pierre Bénichoux, qui n'est pas là.
Bien fait.
Elle adore Christine Bravo, qui n'est pas là. Mais elle adore aussi Christophe de Chavannes.
Qui arrive.
Que voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait?
Vous avez réussi à péter le pare-brise?
C'est une très jolie expression.
Mais non, non, non. C'est bien la conversation précédente.
Et Pascal Légitimus, il est où alors? Il est où Pascal Légitimus?
Vous êtes frais les fruits de mer.
Et Bruno Salomon. Qu'est-ce que t'as fait, Bruno Salomon?
Tu peux pas ouvrir la portière, t'es obligé de.
C'est parce qu'on vient d'avoir un auditeur qui a rêvé de vous. Il a plongé dans l'eau avec une voiture. Il n'arrivait pas à s'en sortir et finalement il a suivi votre conseil.
Et il s'en est sorti.
Et oui, il est toujours vivant. La preuve, il vient de nous appeler, dites donc.
Mais c'est très bien.
Alors, voyez. Bravo, hein. Bon, quelle excuse vous avez encore?
Aucune, j'en ai aucune.
Alors.
J'étais debout tôt. Depuis 8 heures au moins, ça fait 8 heures que je lis le journal.
Ouais.
Je veux dire.
On était en tout cas en train de regarder un peu qui était dans notre public aujourd'hui. Je vous signale que Séverine et Damien qui viennent de La Réunion, ah, ils sont là aussi. Oh, bah, dites donc, elle a même gardé les chapeaux de La Réunion, mademoiselle.
Bonjour.
Alors, bonjour Séverine et Damien, ils écoutent notre émission là-bas.
Ça en fait des trucs pas intéressants.
Pas mal, hein.
Ils n'écrivent pas français par contre.
En tout cas, voilà. On parle pas de Réunion.
Voilà en gros ce que dit le mail.
Il a des cheveux soyeux très impressionnants, le jeune homme.
Ah oui? Ah
il
oui,
a
oui.
Des cheveux soyeux, c'est quoi ce compliment là?
Mais oui, mais c'est parce
c'est un
que
truc
il a la truffe fraîche, regarde
mais
bien.
Mais non, mais on a envie de passer la main dedans et de dire ah, oh, vous avez utilisé Saint-Alexios, tu vois, un truc comme ça.
Enfin, écoutez, franchement,
je fais du placement produit, c'est pas
mon pauvre Christophe. Et j'ai aussi une demande pour Christophe Beaugrand.
Ah bon, ah.
Est-ce que pour l'anniversaire d'une copine mexicaine qui s'appelle Christina, c'est Marie qui fait cette demande, Beaugrand pourrait chanter en espagnol ou en anglais oui, joyeux anniversaire? Ça servira au moins à tous ceux qui ont eu cet anniversaire cette année. Carla Bruni ou Zaz pour la
allez,
voix.
J'enlève le casque.
Je vais faire Carla Bruni en anglais, ce sera très bien.
Zaz, c'est...
Non, je fais pas Zaz.
Ah bon, alors Carla.
Je,
alors.
Pas, je suis beaucoup trop propre pour faire Zaz.
Oh non.
Ah, je sais que ça t'énerve, c'est pour ça.
C'est honteux. Pas ce genre, pas cet humour-là.
Je fais exprès parce que ça t'énerve.
Parce que c'est nul.
Je sais, elle a l'air très propre. La dernière fois que j'ai croisé,
elle s'est trempée dans la rivière le mois dernier en plus, n'importe quoi.
Non, quand il pleut, elle sort chez elle maintenant.
Non, mais c'est pris un grêlon.
Elle est tombée dans l'eau en bagnole, elle a pas cassé le pare-brise.
Enfin, non, écoute, Zaz est propre, je vois pas franchement ce qu'on lui reproche à cette jeune femme.
Ah, non.
Mais je l'adore, Zaz.
Ah, vous pouvez aussi, aimer j'adore. Les gens comme ils sont.
C'est encore pire, ça.
Non, puis l'hygiène, c'est plus à la mode. Faut arrêter avec l'hygiénisme.
Bon, allez-y, ouais. Bon anniversaire alors.
Happy birthday to you, comment elle s'appelle déjà?
Christina.
Christina. Happy birthday to you, Christina. Happy birthday to you, Christina. Happy birthday to you, Christina.
Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Dans un instant, le qui a mieux bossé.
Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé?
On va commencer par... Ah bah par vous, tiens, Christophe de Chavannes.
Ah, c'était juste, hein.
C'est la première fois. Il a raté ton jeu préféré, Christophe.
C'est la première fois que je commence, en plus, tu vois.
Eh ben,
d'habitude, je suis en dernier, j'ai des questions pourries. Et en général, le premier, il a une question à la cool.
Non, bah, c'est une question...
Alors, j'écoute avec plaisir.
À la cool, puisque vous allez pouvoir, évidemment, me donner un des deux noms français qui ont gagné Roland-Garros en double. Ah, oui. 30 ans.
Roger Vasselin
bravo. Et Bento. Bonne réponse, bravo. Christophe bravo. De Chavannes.
Merci.
À vous, d'ailleurs. Florian Gazan, qui a été en pèlerinage au Mont Beuvray ce week-end pour la Pentecôte.
J'aime bien la tête quand il fronce les sourcils, c'est mauvais signe.
C'est facile.
Montebourg,
ouais, Pentecôte,
bonne réponse
normal.
De Florian Gazan.
C'est un peu normal que Montebourg fasse un truc à la Pentecôte.
Oui, bah, fait le malin, ouais. Fait
Olivier de Guerre. Comment Kersauzon, c'est ça. Olivier de Kersauzon.
De Kersauzon.
Qui n'a pas gagné Roland-Garros en 2009?
Bon, c'est pas qu'il y a de mecs.
Oui,
c'est vrai que c'est allé ouvert cette question. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas gagné Roland-Garros.
Bah, à peu près tous les candidats, sauf le gagnant.
Qui n'a pas gagné par rapport aux autres années.
Si tu dis Yannick Noah, t'as gagné, tu vois, c'est facile.
Noah.
Mais non. Raphaël Nadal, voyons.
Mais attends, mais je connais rien au foot, moi.
Oui, mais Noah
n'a pas gagné non plus en 2009.
Oui, c'est vrai, Noah n'a pas gagné.
C'est quand même incroyable. Nadal, il a gagné 9 fois sur 10 Roland-Garros. Il a gagné en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et là encore 2014. Il n'y a qu'en 2009 et c'est Roger Federer qui avait gagné.
Ouais.
Et
d'ailleurs, Söderling, contre Söderling.
Il avait été battu par Söderling.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'était pas contre Nadal la finale.
Non, c'était contre Söderling.
Söderling l'avait battu en 8e, je crois.
Les 10 derniers vainqueurs à Paris, 9 fois Nadal, et une fois Federer en 2009. Vous êtes éliminé, Olivier de Kersauzon.
Ça me fait un chagrin fou.
Christophe Beaugrand, c'était la fête de lutte ouvrière à Presles, comme chaque année à cette époque.
Ouais.
Rappelez-moi qui est la meneuse aujourd'hui qui a succédé.
C'est Nathalie Arthaud.
Nathalie Arthaud, excellente réponse.
Bravo.
Même elle n'avait pas la réponse, pour te dire.
Christophe François Renucci maintenant. François, pouvez-vous me dire dans quelle ville un incendie volontaire a fait deux morts samedi et ce sera un enfant de 12 ans, hélas, qui aurait mis...
À Aubervilliers.
À Aubervilliers, bonne réponse. Alors, Amélie Mauresmo entraînera qui désormais, Titoff?
L'Écossais Andy Murray.
Andy Murray, bonne réponse.
Oh là, oui. Quelle partie,
Christophe? On surnomme le petit pois sur scène. Hein.
Pourquoi?
Écossais.
Oh non. Vous êtes éliminé, Christophe de Chavannes.
La préparation était bien.
Elle partait pas de loin.
Celui-là, on l'a pas trouvé tout de suite.
C'est vraiment la fin des haricots. Ouais.
Ah, c'est Monsieur Plus. Monsieur Plus.
Christophe de Chavannes, où a-t-on vu une grand-mère de 7 m40 ce week-end?
Une grand-mère de 7 mètres 40.
Oui, une grand-mère de 7 mètres 40.
Ce week-end, j'étais très, très off.
Ouais. Elle a fait une petite promenade de santé dans.
Bien sûr, bien sûr. Ben non.
Une grand-mère.
Elle fait pas 7 mètres 40.
C'est pas la reine d'Angleterre.
Ah non, c'est pas la reine d'Angleterre.
Non, ou alors,
elle est beaucoup plus petite.
Ou elle avait mis un grand chapeau alors.
Énormément.
Elle fait 7 mètres 40, mais en une heure.
Mais pourquoi vous dites une grand-mère? C'est un animal. C'est un animal.
Ça doit pas être un animal.
C'était drôle. Elle fait 7 mètres 40, mais en une heure, c'est bien, Gazon, oui. C'était à Nantes.
Attends, je veux le dire.
Oui, c'était à Nantes. À Nantes. La compagnie royale de luxe, chaque année, présente des géants. Parfois, c'est un éléphant géant, un clown géant. C'était une grand-mère géante de 7 mètres 40.
Vous êtes chaque année
éliminé, Christophe de Chavannes. Oui, c'est chaque année. Pouvez-vous me citer, cher Florian Gazan, un des buteurs de l'équipe de France contre la Jamaïque qui a gagné 8-0.
C'est une blague, cette question.
Par Lloris, personne n'a marqué.
Sur 8, ils devraient trouver.
C'est vrai, ils ont tous marqué à part Lloris. Matuidi, Giroud, Benzema.
Bonne réponse de Florian Gazan. Il m'en reste 4, hein. Gazan, Beaugrand, Renucci et Titoff. Pouvez-vous me dire, cher Christophe Beaugrand, quel match ouvrira la Coupe du Monde de football au Brésil?
Je te l'ai dit ce matin, Christophe.
Oui, tu me l'as dit ce matin, mais j'ai oublié. Je sais pas, je sais plus.
Enfin, redis-le-moi
fort.
Je te dis ce matin, pour les gens qui écoutent et qui sont pas là depuis longtemps, vous bossez ensemble le matin. Hein,
oui, oui.
Pour que ce soit clair.
Oui, on ne vit pas, oui, on ne s'est pas réveillé ensemble. On bosse ensemble le matin sur Virgin Radio.
Ce matin, je t'ai dit Brésil-Croatie.
Et voilà. Ah bah, Brésil-Croatie.
Non, c'est trop tard. Vous êtes éliminé. Pouvez-vous me donner le nom du nouveau président de l'Ukraine investi lors d'une cérémonie samedi, François Renucci?
Brésil-Croatie.
Janoušečko.
Non, la fin est bonne, mais...
Poroshenko.
Poroshenko. Vous êtes éliminé. Titov, comment s'appelle le film dont on voit les affiches un peu partout dans la France en ce moment et qui nous montre Isabelle Huppert et Jean-Pierre Darroussin à la campagne?
C'est
facile.
Quelle tristesse.
Un peu partout dans la France.
Un film de Marc Fitoussi.
L'échappée belle.
Non. C'est pas ça. C'est l'annonce d'une.
C'est le nom
d'une chanson de Sébastien Tellier.
Elle danse aussi.
Elle est à la campagne, elle s'en va retrouver son amant à Paris.
Et ça s'appelle.
C'est le plus gros tube de Sébastien Tellier.
Ouais, c'est le plus gros tube de Tellier.
C'est le seul.
La ritournelle.
La ritournelle. Bonne réponse.
On a un peu aidé là.
Non, légèrement.
Bonne réponse, Titoff. Jean-Patrick Gilles a été nommé médiateur. Mais dans quel conflit, Florian Gazan?
Les intermittents?
Les intermittents du spectacle. Bonne réponse.
Franchement, la grand-mère de Nantes, franchement, c'est.
Il va avoir du boulot, Jean-Patrick. Il n'a pas digéré.
C'est Maria Sharapova qui a remporté.
Vous avez la bonne réponse.
Qui a remporté la finale de tennis dame à Roland-Garros. Mais contre qui, Titoff?
La ritournelle?
C'était une. Contre qui?
Une femme, une roumaine. C'était une roumaine.
Ciao, c'est Scoo. Je connais pas son nom.
Simona Alep, non?
Simona Alep.
Ça frime pas.
Le vrai gagnant, c'est incontestable. C'est Florian Gazan.
Incontestable.
Quel talent.
Bravo.
Je ne vous ai pas donné vos cadeaux, Florian Gazan.
J'étais en train de chialer, là.
L'atelier du poissonnier.fr vous offre, regardez, ces jolies terrines onctueuses, des associations de saveurs, des créations de l'atelier du poissonnier. C'est à Goncoutainville, dans le 50. C'est la Manche, le 50?
Oui,
ah, oui, c'est ça. Hein. Ouais, regardez, des rillettes de rouget barbé au piment d'Espelette.
Oh, c'est bon,
superbe.
Ah, non, c'est pas mal, hein, franchement. Puis en plus, l'emballage est très joli. Voilà, l'atelier du poissonnier. .fr. J'ai un DVD aussi, Sacrifice du débarquement à la libération de Paris, un film d'Isabelle Clarke, Daniel Costel et Frédéric Lumière, c'est le nouveau film Choc, ouais, c'est pas mal. J'ai aussi Avant on était deux, c'est Astrid Maux qui publie ce joli petit livre, c'est votre voisine je crois, hein, François Renucci.
Oui, tout à fait, du dessus.
Très belle anecdote.
Elle fait du bruit ou pas, voilà, ça va?
J'ai situé le voisinage.
Ça s'appelle comment? Avant on était deux.
Pourquoi vous a donné ça votre voisine?
Bah parce qu'elle l'a écrit sûrement, non? Elle dessinait qu'elle voulait.
Avant
faire
on était deux. Avant la grande invasion, c'est chez Marabulle.
C'est pour les BD.
C'est pour les enfants, j'imagine.
Oui, oui,
bande dessinée.
C'est pour les parents surtout.
C'est joliment dessiné en tout cas. Oui, c'est pour que les enfants lisent aux parents.
Elle est illustratrice.
On peut retrouver ce livre sur son blog www.astridm.com. Là, j'ai un truc qui va vous faire plaisir, Florian Gazan. C'est un supplément de L'Équipe, un hors-série. Tous les buts de la France en Coupe du Monde. Les 96 buts marqués par la France en Coupe du Monde. Il y en a eu 96.
Il y a eu combien de Coupes du Monde?
Ah bah écoutez, je ne sais pas combien il y a eu de Coupes du Monde en tout, Gazan, vous
en
savez,
tout,
ça vaut.
On doit être à la 20e dans ces eaux-là, non?
J'ai aussi Elle, vive la sieste au bureau comme à la plage.
Ah, très bien.
C'est moi qui ai écrit l'article.
C'est 18 looks ultra féminins à la une de Elle cette semaine. Voilà vos cadeaux. Mais j'ai un cadeau supplémentaire. C'est Paul Vermus, évidemment.
Ah, bah, t'as raison. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bon, rapido, Paul, parce que c'est assez simple. D'abord, est-ce
attendez, que vous... attendez, avant rapido, j'exige des explications et peut-être même des excuses. Laurent,
pourquoi?
Bonjour. Un mois et demi, jour pour jour, je vous ai donné la liste des personnalités qui pouvaient remplacer Natacha Polony. Oui. Et dans cette liste, il y a exactement 5 semaines, il y avait le nom de Léa Salamé.
Alors ça, sûrement pas.
Pas du tout, non.
Bah, on... Vous vérifierez.
Ah bah ça, on a vérifié.
Je suis navré.
Dans vos rêves, Paul, dans vos rêves. Mais,
non,
mais...
pas dans mes rêves. Il faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Je vous l'ai donné, mais vous ne vouliez pas me le dire, je pense.
Tiens, puisqu'on remet les pendules à l'heure, vous avez vu que ça y est, Mme Balkany a avoué qu'elle avait une maison non déclarée au fisc.
Pourquoi vous me parlez de ça, là?
Bah, je voulais savoir si vous y étiez allé. Dans
elle
cette
est comment
maison.
La maison?
Non, mais non.
Je suis sûr que vous y êtes allé en plus.
Mais non.
À Saint-Barth, allez, avouez.
Il y a des chaussettes sous le lit encore.
Je pense même qu'il y a un trousseau de clés. Tu y vas quand tu veux, mon polo.
Vous y étiez ou pas?
Je n'avouerai que quand vous avouerez.
Non, mais allez, entre nous.
Que quand
Paul.
Vous avouerez quoi?
Non, je ne.
Paul, les yeux dans les yeux.
Allez, les yeux dans les yeux.
Avez-vous déjà mis les pieds dans cette
non,
maison?
Non, je vais arriver de déjeuner avec eux, bien sûr, bien
où,
sûr.
Où
du côté de Saint-Martin, mais c'est arrivé, puisque je vais souvent là-bas.
Oui, et donc, où ça?
Bah, chez eux.
Dans une ville.
Une ville là?
Du côté de Saint-Martin, oui. Mais.
Parlez-moi plutôt du dîner en blanc.
Il ne va pas être inquiété, au témoin d'un doute.
Paul,
oui.
Il n'est jamais inquiété.
Ça nous arrange. Ça me fait peur.
Il est toujours inquiétant.
Personne n'ose le mettre en garde à vue.
Oui, il est déjà parlé.
Il a
48 dossiers.
Bon, allez, je vais vous libérer, mon cher Paul, avec le dîner en blanc qui se prépare, comme chaque année. Il est prévu jeudi prochain, le 12 juin. C'est qu'il y a 10 000 personnes qui se réunissent, tous en blanc, quelque part dans Paris. Les organisateurs ont donc annoncé que ce serait pour jeudi 12 juin. Mais pour l'instant, évidemment, le lieu de rendez-vous est gardé secret jusqu'au dernier moment, nous dit-on.
Oui, mais Laurent, si je donne le lieu, je gâche la fête.
L'an dernier, c'était dans le 16e arrondissement, près de la fontaine du Trocadéro, qu'avait eu lieu le fameux dîner en blanc. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est où il a lieu jeudi,
mais
Paul.
Quel est l'intérêt de faire un dîner où personne ne sait aller?
C'est pas bien de ma part de faire ça, Laurent.
Mais non,
je veux le faire quand même.
Au dernier moment, on va leur dire. Où ça se
dernier moment, qu'est-ce que vous appelez dernier moment?
Est-ce que le dîner en blanc,
ça se prépare?
Mais au dernier moment, on envoie des spams, des textos, tout ça, Internet, et on fait tous un grand pique-nique en blanc.
Mais ça se prépare un pique-nique.
C'est-à-dire que si je vous donne le lieu qui est prévu, Laurent, à tous les coups, comme j'aurais donné le lieu prévu, au dernier moment, ils vont charger la mécanique.
C'est un peu comme pour Léa Salamé, quoi.
Vous n'êtes pas gentil avec moi, franchement.
Vous nous la donnez l'adresse.
Ouais, je la donnerai.
L'homme le plus vieux du monde s'est éteint à 111 ans dimanche. Alexander Imich, c'est son nom, un New-Yorkais d'origine polonaise. Alors là encore, j'en ai marre parce que tous les 15 jours, on nous annonce la mort de l'homme le plus vieux.
C'est vrai.
À cet âge-là, ça tient pas longtemps, là.
Oui. C'est logique.
Non, parce que si vous voulez savoir quel est le.
À chaque fois, on nous dit l'homme le plus vieux du monde est mort. Alors il est remplacé par tel nom. On retient ce nom-là. Et puis, 3 semaines plus tard, on nous dit « Ah, l'homme le plus vieux du monde est mort » et ce n'est pas le nom de celui qui avait succédé à celui d'avant. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ce qui voudrait dire, Laurent, c'est...
Bon, grâce à moi, vous le saurez. Il n'y aura pas d'erreur là-dessus.
Ce qui voudrait dire, si vous permettez...
Entre le moment où je vais vous dire et le moment où l'émission va être diffusée, peut-être qu'il peut disparaître.
Allez savoir.
Mais sur le concours de l'homme le plus jeune du monde, ça change encore plus vite. Ça va encore plus vite que pour l'homme le plus vieux.
Vous avez raison.
Encore moins longtemps l'homme le plus jeune du monde.
Je crois que Christophe essaie de dire un truc.
Mais ce qui Christophe.
Non, ce qui tendrait. Non, il m'a semblé. Hein. Oui, ce qui tendrait pour entendre un truc, mais j'ai un doute en fait.
Non, il veut dire un truc, il veut dire le 15 septembre.
Non, mais je suis pas sûr.
Portugais, quelqu'un parle.
Parce que je ne crois pas qu'il arrivera à finir sa
phrase. Quelqu'un parle ou pas?
Il est arrivé. Parce que il est arrivé.
Ce qui pourrait nous faire tendre à croire que la science nous bourre le mou, puisqu'on dit que plus ça va, plus on avance en âge, alors que là, plus les vieux meurent jeunes, moins ces dires sont. Non mais en vrai.
La dernière enquête concerne Nicolas Sarkozy. Que s'est-il passé en Suisse? Il paraît que nos amis suisses ne sont pas contents du tout de la conférence donnée la semaine dernière par l'ex-président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai vu des phrases sur Twitter assez désagréables vis-à-vis de l'ex-président. Qu'a-t-il fait pendant cette conférence qui a tant déplu aux Suisses?
Très bien.
C'était le Swiss Economic Forum, si vous voulez des précisions.
Ouais, c'est un petit Davos.
C'est quoi?
Un petit Davos.
C'est le mini Davos. Hein. C'est le Davos du pauvre.
Du pauvre.
C'est le Davos Sounet.
Ça fait trois belles enquêtes. Hein. Je ne vais pas encore me faire que des amis. Hein.
Le dîner en blanc, le Swiss Economic Forum et le doyen de l'humanité, ça vous fait trois grosses enquêtes, Paul. Résultat avant 18h.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Malika, bonjour Eric.
Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe.
Malika est au pavillon sous bois, Eric a sucé en brie. Malika, dévoilez votre identité.
Bonjour, donc je suis Malika, je travaille à Paris dans un restaurant chez Georges, je suis chef de rang. Et l'année dernière, on a eu le plaisir de voir Pierre Bénichoux.
C'est pas vrai, racontez-nous.
Non, enfin, j'ai été quand même le saluer, parce que ça fait 2 ans à peu près que j'écoute votre émission.
Il vous a dragué un peu?
Un tout petit peu, oui, il a fait son show.
Est-ce qu'il a payé?
Un tout petit peu aussi.
Je sais pas, il n'était pas dans mon rang, donc je ne peux pas vous répondre.
Malika, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Vous avez mangé dans votre restaurant chez Georges?
Alors oui, parce que j'ai travaillé hier soir, bien que c'était mon anniversaire. Hier.
Bon anniversaire, Malika.
Malika.
Donc c'était le repas du personnel et hier soir c'était poulet rôti, frites, salade.
Ah oui, pour un anniversaire, ils se sont cassés vos copains. Eric, à Sucy-en-Brie, votre métier?
Où ça?
Bonsoir, bonjour.
Bonjour.
Alors moi
bonjour.
Je suis informaticien.
Informaticien, très bien.
Comment on appelle les habitants de Sucy-en-Brie?
Ça c'est une bonne idée, le gentilier je ne le connais pas.
Vous habitez Sucy-en-Brie et vous ne savez pas comment ça s'appelle?
Bah non, j'arrive très bien à vivre sans.
Et vous êtes né à Sucy-en-Brie?
Non, pas du tout, non.
Ah, c'est pour ça.
Moi, je sens bien les suciens.
Non, les sucissois, voilà.
Ah, sucissois.
Ah, sucissois.
Ouais. Ouais. C'est les gens un petit peu secs.
Les sucissois.
Sucissois secs.
Non, écoute, Christophe.
Je m'en vais. De toute façon, c'est la fin de saison, j'ai bien compris.
Oui, attends, on liquide.
Ah, on avait vu que tu déstockais.
Malika et Eric, vous êtes prêts pour partir dans un château-hôtel collection, l'hôtel Lieuse. 3 jours, 2 nuits. Alors, juchez sur... Oh, c'est la première fois, celui-là. Je vais vous le vendre du mieux que je peux. Je découvre en même temps que vous ce magnifique hôtel Lieuse. Hôtel de charme, restaurant gourmand. Juchez sur son promontoire à quelques encablures de cognac. Cette belle demeure du 19e siècle accueille ses hôtes à l'orée de son jardin conçu dans le respect de la biodiversité. Pour déguster une cuisine créative qui met à l'honneur les producteurs locaux, agrémentée d'herbes sauvages du jardin et du potager. L'hôtel Lieuse est heureux de vous offrir un dîner pour 2 personnes en plus de l'hébergement pendant tout un week-end. www.chateauhotel.com pour en savoir plus. Malika et Eric, êtes-vous prêts?
Oui.
C'est une religieuse. Elle a gagné jeudi soir dernier. Quoi donc?
The Voice est italien.
Bravo.
La finale italienne de The Voice. Bonne réponse d'Eric.
Bravo. Malika était au taquet sur le clavier, mais...
Sœur Christina, c'est son nom, a fini par gagner The Voice. On avait déjà parlé ici.
On en avait parlé, elle est incroyable. C'est une bonne sœur qui est vraiment habillée en bonne sœur comme Sister Act et on l'entendait chanter du Kylie Minogue, plein de tubes comme ça.
Une voix de ouf.
Et oui, une voix incroyable. Et le plus drôle, c'était la toute première fois quand les coachs se sont retournés parce qu'ils s'attendaient évidemment pas à tomber face à une bonne sœur.
Sauf qu'on n'imaginait pas qu'elle irait jusqu'en finale et qu'elle la gagnerait avec 62% des votes des téléspectateurs italiens.
C'est devenu une star en Italie, elle a fait découvrir de magazine, tout le monde s'est amouraché. Il paraît que même le pape François, dans une interview, a répondu sur Sœur Christina en disant qu'il trouvait ça très émouvant.
Papa Francesco, vous êtes croyant, Eric?
Absolument pas.
Ah, merde, parce que j'allais vous dire, Dieu vous a aidé.
Presque. C'est mon ami qui m'a aidé.
Ah, comment elle s'appelle, votre amie?
Florence.
Ben voilà, c'est Sœur Florence qui vous a aidé. Quant à Malika, je suis désolé.
C'est pas grave,
mais c'est perdu quand même. Mais sachez que c'est la fête des pères dimanche prochain, Malika. Vous avez un mari?
Oui.
Oui.
Eh ben voilà, pour la fête des pères, vous êtes voilà. Il est papa ?
Oui, aussi.
Eh ben, super. Vous avez gagné un coffret Clarins pour lui.
Bah, très bien, merci bien.
Eh oui, Clarins vous offre la trousse Clarins Men de l'homme idéal. Une eau dynamisante méga flacon de 500 ml qui a été testée par Olivier de Kersauzon. Un gel hydratant.
Quel enfoiré.
Qui a été testé par Christophe Beaugrand.
C'est vrai.
Un nettoyant exfoliant et une huile de rasage Clarins Men testée par Christophe de Chavannes. Un déodorant Roll-On antiperspirant.
Sur qui ça va tomber.
Testé par Florian Gazan.
Ça marche pas. Il marche pas.
Et un spray solaire testé par Titoff. Bonne fête et longue vie à la peau des hommes grâce à Clarins. Qu'est-ce qui a duré deux semaines en 1930 ?
Est-ce que c'était positif ? C'était bien ?
Oh, c'était ni positif ni négatif. On va dire positif.
C'était des élections ?
Non.
C'était une vente aux enchères ?
Non.
Une compétition sportive ?
C'est amusant, évidemment, de nous rappeler ça dans la presse aujourd'hui, parce que ça paraît incroyable, mais en 1930, ça avait duré deux semaines.
Les 24 heures du Mans ?
Non.
Un mondial de foot ?
Non.
Une épreuve de foot ? Roland Garros.
Non.
Mais c'est une compétition sportive.
Ce n'est pas une compétition. Mais
c'était pas une compétition sportive, mais c'était.
C'est quelque chose de physique en tout cas.
Non.
Pas du tout.
C'est une manifestation.
Non.
Oui, une cérémonie.
Non.
Est-ce que les gens ont marché?
Non.
C'est quelque chose qu'on fait en moins de temps maintenant?
Non, mais on était tout prêt, puis vous êtes éloigné.
C'était sportif.
Donc c'est sportif.
Non. Ce qui a duré deux semaines n'est pas sportif.
C'était un jugement.
Un tirage au sort.
Non.
Une remise de prix?
Non.
C'est la fête après?
Non.
Une garde à vue?
Non, mais vous étiez tout prêt.
La grève dans les métros?
Non.
Donc est-ce que c'était la Coupe du Monde de foot?
Oui. D'accord. Ça a un lien au avec Brésil. La Coupe du Monde de foot.
C'était au Brésil?
C'était pas au Brésil en 1930, c'était en Uruguay. Ouais.
Mais ce qui a duré deux semaines là, c'est
la pluie.
Non.
Pour que les Français supporters aillent jusque là-bas en bateau.
C'est-à-dire pourquoi les supporters?
Ils ont mis deux semaines.
L'équipe de France de foot a mis deux semaines pour arriver là-bas en bateau.
Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Ah ouais.
Ben oui.
Qu'est-ce qui a duré deux semaines en 1930 ? Le voyage, vous rendez compte un peu ?
T'imagines les boules, t'es éliminé au premier tour ? T'as plus de transport que de compète.
Mais oui, c'est ça qui est dingue quand même. Mais parce que là, ils sont partis nos bleus. Ça y est, ils sont même arrivés au Brésil.
En Afrique du Sud. Franchement, est-ce que vous avez vu les diverses images sur les infos en continu, les enfants ?
Allez-y.
Avec les commentaires de l'avion bouge, l'avion a fait 100 mètres.
C'était interminable.
C'était incroyable. C'était des commentaires de décollage d'avion. Et après, on a eu droit aux images de nuit. Ouais, ça y est, ils arrivent. Alors, t'es Espagnols qui arrivent, sont là, cravate rouge, costume et tout. Puis t'as les Français qui descendent de l'avion. Un bordel, les survêtements ouverts, le slip dehors. Belle représentation de l'équipe de France. C'était ridicule quand même, ce décollage.
Et en 1930, ça avait duré deux semaines, le voyage.
T'imagines, heureusement qu'il n'y avait pas les infos continues.
Évidemment, ils y allaient. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est dingue quand même. Ouais, deux semaines, alors.
Puis ils n'ont pas pu s'entraîner, surtout.
Sur le bateau.
Sur
plus qu'en avion, vous voyez.
Il y a des cabines de la taille d'un terrain de foot, c'est connu.
La croisière des Bleus en 1930 avait duré deux semaines. Là, on est content quand même de savoir qu'ils sont bien arrivés au Brésil, nos Bleus. Ils sont dans un hôtel, paraît-il, très sympathique.
Pas très cher, 80 euros la chambre.
Ah ouais ?
100.
Ouais.
Ça alors ?
J'ai lu 100.
100, c'est la double.
À Ribeiro Preto. Il faut retenir le nom de la ville parce que ça va tomber au qui a le mieux bossé dans les jours qui viennent.
Ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait un cahier des charges de la FIFA qui tombe à l'hôtel où l'hôtel doit respecter et mettre aux normes de la FIFA certains trucs pour les
quoi,
joueurs.
Quoi, par exemple, quoi?
Se démerder pour faire un petit terrain de foot d'entraînement. Que les salles de gym, que les salles de les vestiaires aient une piscine chaude et une piscine froide, parce que c'est très important pour la circulation sanguine.
Non, puis après, en fonction des équipes, il y avait des exigences particulières. Ouais. Il y a certains pays qui ont demandé, par exemple, qu'il y ait des consoles de jeux dans toutes les chambres pour les joueurs, pour les occuper. Je crois que la France, il y a des consoles de jeux.
Ils ont interdit les bouquins.
Il y a un terrain de boules.
Il y a des trucs comme ça.
Il y a un terrain de pétanque.
Non,
pour la
ça, c'est le bordel.
Puisqu'on parle de Rio, sachez qu'Europe 1 évidemment sera la radio du mondial. Retrouvez la nuit brésilienne avec Nicolas Poincaré et Thomas Soto dans la nuit de jeudi à vendredi de 18h30 à 9h du matin sur Europe 1.
Ils vont pas être frais.
Vous vous rendez compte un peu ? Et d'ailleurs, dans le cadre de cette programmation spéciale, voici Lynn Renault qui chante Rio de Janeiro. Qu'est-ce que les célèbres bouquinistes des quais de Paris vont peut-être devoir arrêter de vendre ?
Des livres ?
Non.
Ils vendent quoi d'autre que des bouquins ?
Des tours Eiffel ?
Des cartes postales, ils vendent.
Non.
Des bandes dessinées.
Non. Qu'est-ce que les bouquinistes des quais parisiens vont peut-être devoir arrêter de
des
vendre?
Des photos.
Des photos, non.
De la drogue.
Non plus.
Des vieux magazines.
De la drogue. Pensez que les bouquinistes des quais parisiens vendent de la drogue.
C'est la crise, hein, qu'est-ce que tu dis?
Des vieux magazines érotiques
C'est vrai qu'il y en a.
C'est vrai, il y en a.
Qui va chez les bouquinistes parisiens de temps en temps?
Je passe devant, souvent.
Moi, je crois que j'ai jamais rien acheté là-dedans.
Moi non plus, il n'y a que des vieux bouquins pourris.
Mais je crois que jamais personne n'a acheté quelque chose.
Ah si, des cartes postales, des jolies photos.
J'avais retrouvé le lui avec Pierrette Le Pen.
C'est vrai.
Collector,
ah, oui, pas mal.
Avec le plumeau et tout.
Le plumeau.
C'est la plumeau. Ah oui, elle s'est mise en soubrette.
Oui, en soubrette.
Énervée. Et puis ça va, en ce moment, il est en forme un peu. Il dit pas de conneries. Hein. Il dit pas de conneries du tout. Hein. Non, très bien.
Il est très mal informé. Il a dit je ne savais pas que Patrick Bruel était juif. Quand même, il faut
oser. Il se fout de la gueule du
faut
monde.
Il faut oser dire ça.
Non, mais
il a dit je pensais qu'il était breton.
Et je l'ai vu sur Canal. Il était interviewé. Ce qui est formidable, c'est qu'à un moment, il y a un petit plan de caméra derrière. T'en as 20 derrière qui écoutent, qui sont ses copains, sa femme, tout ça. Et qui écoutent les choses qu'il dit qui sont absolument d'un autre âge et d'un autre monde.
De toute façon,
mais pardon, mais quand tu vois la vidéo, il y a la femme qui est à côté.
Elle est formidable, celle-là, l'intervieweuse.
Elle le chauffe grave, elle le relance.
Mais grave.
C'est elle qui lui fait.
Et monsieur Bruel.
Monsieur Bruel, hein.
C'est toujours la même.
C'était préparé.
Et c'est toujours la même.
C'est son intervieweuse officielle sur le site internet.
Elle a l'air charmante.
De toute façon, le pauvre ne peut pas dire. Enfin, le pauvre ne devrait pas dire.
Le pauvre.
Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas que Bruel était juif, puisqu'il y a quelques mois ou quelques années, il l'avait nommément appelé Patrick Ben-Guy.
Mais il l'appelait tout le temps, Patrick Ben-Guy.
Alors, donc, non, mais hier, il a dit n'importe quoi, il nous fait croire n'importe quoi.
Évidemment.
Bah oui, ça m'éloigne de mes bouquinistes.
Ah oui,
hein.
Des partitions musicales.
Non, non.
Des cartes postales, peut-être, non?
Non.
Il ferait concurrence, allez, non.
Est-ce que c'est parce qu'une autre profession demande que ce soit interdit de vente? Parce
non.
Parce qu'on leur
non.
pique du taf, non? C'est pas
non.
ça.
C'est pas des parapluies?
Non.
Et donc, on sait qu'ils les vendent ou ça va nous surprendre en plus de l'apprendre?
A priori, je vais vous dire, vous ne devez pas savoir qu'ils les vendent.
Oui, sinon, on aurait dit.
Eh oui.
Est-ce que c'est des préservatifs?
Non.
Est-ce que c'est toxique? C'est mauvais pour la santé ce qu'ils
non.
vendent?
Non.
Et pourquoi ce serait interdit d'ailleurs? Est-ce que ce serait quelque chose de, administratif?
Ça, c'est la bonne raison. Si vous aviez un peu de jugeote, si vous réfléchissez.
Oui, on est tous cons, Laurent, il n'y a pas de problème.
Donc, dans le public,
assume.
Ils savent tous.
Des boissons.
Des boissons, oui. Et pourquoi on leur interdirait de vendre des boissons?
Eh bien, pour ne pas embêter les cafés qui vendent des boissons.
D'accord.
Oui, vous voyez,
des voitures pour pas embêter les concessionnaires peut-être.
Ouais, des tracteurs même pour pas emmerder Massé Ferguson.
Bonjour, je voudrais par image de 1979
et une Golf
une Omega mais une
si super. Vous avez un Massé Ferguson d'occas, ça m'intéresse.
Non, écoutez. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vendre les bouquinistes qu'on va peut-être bientôt leur interdire de vendre?
Des clopes.
Non, non. Pas
des tickets
clopes.
De métro.
Mais ça, des clopes, vous voyez au moins, ça, c'est pas bête. Vous voyez.
Des tickets de métro.
Non, non plus.
Alors, bon, ils vendent des vieux.
Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vendent depuis toujours?
Ah, bah, je suis bien content de ma question, tiens.
Bon, alors, ils vendent des livres, des vieux magazines.
Des vieux livres.
Oui, mais ça, je vois pas pourquoi.
J'ai posé une question que vous avez.
Zappé.
Bouté.
J'aurais zappé une de vos questions.
Oui, je vous
l'ai posé trois fois, quand même.
Allez-y.
Et oui, mais mathématique, je m'en souviens maintenant.
Ça fait deux fois que tu parles la mémoire.
Merde. Olivier de l'aide.
Non, je dors.
Non, mais quand même, quelqu'un a le numéro pour les AVC là quand même.
Non, on va trouver un bouquin.
Arrête.
Il y a bien un bouquin sur Alzheimer au bouquiniste, non?
Non, c'est des documents politiques.
Non, du tout.
Est-ce que ce sont des livres?
Non, du
un
tout.
Un type de livre.
Ah,
non,
voilà.
C'est un objet.
Des encadrements.
Pardon.
C'est un objet.
C'est un objet.
Ah. Des posters.
Non.
Est-ce que c'est un objet décoratif?
Réfléchissez un peu.
Arrêtez maintenant.
Un objet qui a un rapport avec
les livres. Des cadenas.
Ah, ouais.
Expliquez Florian Gazan.
Par rapport au pont des Arts où les gens viennent mettre leur petit cadenas d'amour et il y a un bout qui s'effondrait sous le poids.
Bonne réponse de Florian Gazan.
Et d'où les bouquinistes vendent des cadenas? Ils vendent des cadenas depuis l'histoire des cadenas, pas d'avant.
Évidemment, les bouquinistes, ils se sont dit, tiens, on va faire de la...
Ah non, ce que j'ai demandé tout à l'heure, je m'excuse bien. Ah non, je m'excuse bien. J'ai demandé tout à l'heure... Ah, non, mais... Les connards, écoute-moi. J'ai demandé tout à l'heure, 2 secondes, arrête, pas de bruit. Arrêtez 2 secondes.
Ils en vendent depuis qu'ils en vendent.
Non, j'ai dit depuis tout à l'heure, j'ai dit ce qu'ils en vendent depuis très longtemps et tout, et la réponse a été, voilà, boutée aussi, également celle-là. Donc on pouvait... C'est très récent comme vente.
Ah, bah bien sûr, mais qui vous a dit que c'était vieux comme
non, le premier qui a dû le vendre, c'était son cadenas à lui, parce qu'il ferme chaque fois leur...
leur boutique avec un cadenas.
Exactement.
La première fois qu'un bouquiniste a vendu un cadenas, à mon avis, c'était le sien. Moi, je les vois quand je passe sur les quais, chaque fois, ils sont en train de fermer leur truc comme si on allait leur piquer leur bouquin.
Il a pas vendu, il est allé mettre son propre cadenas, le mec.
Tu crois carrément, c'est lui qui a lancé la mode, quoi.
Eh oui, les grillages recouverts de cadenas supportaient près de 500 kilos de métal et ils se sont écroulés ce week-end. Donc évidemment, là, la mairie de Paris commence à se dire que cette pétition qui avait été lancée, dont on s'est un peu moqué, je dois dire, il y a quelques semaines, il faut faire notre mea culpa.
Je pensais pas que ça allait être si lourd.
Voilà, je trouve que c'est moche, moi.
Il y a une américaine qui avait lancé une pétition contre les cadenas. Bah, il faut croire qu'elle avait raison, puisque effectivement, bon, c'est sans danger en même temps. Hein, c'est ce qui nous explique dans la presse.
Ça bouge la vue.
Bah, attends, c'est sans danger si la rambarde est tombée, s'il y avait des gens à côté.
Non, la rambarde n'est pas tombée, parce que le grillage s'adosse à des barres en métal qui ne peuvent pas tomber côté Seine.
Des barres en métal, c'est pas des barres en carton.
Non, mais enfin voilà, donc il n'y a aucun danger, on peut laisser les cadenas. Vous voyez.
Ouais.
Et les bouquinistes continuent.
Enfin, c'est moche. Rajouter c'est des cadenas
moche.
Partout.
Non, mais c'est moche, vous voyez plus la scène, les chiens n'ont plus aucune vue.
Ouais, tu vois plus la scène si t'es mimimati, hein, sinon tu la vois.
Il est fond sur tous les ponts, surtout. Avant c'était sur un seul pont. Et puis là,
non, mais c'est vrai, ça va devenir pourri.
Et sur la Tour Eiffel, il y en a.
Ça rouille, les litres de rouille. C'est très toxique.
Il paraît qu'en prison, pour fermer les portes, ils mettent des fleurs.
Non, mais c'est mignon le cadenas des amoureux quand même.
Ça n'a aucun intérêt.
Olivier, je suis sûr.
J'en ai trois, moi.
Ah, voilà, vous avez posé sur le pont des Arts. J'en suis sûr avec votre
femme. La même semaine.
Est-ce que vous posez des cadenas ? Parce que ça, avant...
Sur votre femme ?
Non, mais j'imagine que dans votre château, il doit y avoir ce genre de ceinture...
chasteté.
De chasteté qu'il y avait à l'époque du Moyen-Âge.
J'ai jamais compris comment ça marchait, moi.
Il n'y a jamais eu.
Parce que ça, les marins, c'est, j'imagine, la première chose qu'ils doivent utiliser quand ils quittent leur épouse, c'est de mettre une ceinture de chasteté à leur épouse pendant tout le temps des records que vous établissez.
Ils préfèrent les cacheter à la cire, en fait,
dans son château. Si les marins avaient fermé l'accès de toutes les gonzesses qui tirent, il y en aurait pas mal qui seraient fermés pour toujours. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a beaucoup de marins qui disparaissent avec la clé.
Ah oui, c'est les boules, ça.
Non, c'est pas ça.
Il vaut mieux un digicode.
C'est des conneries, ça.
Oui, mais alors, ça dépend dans quel état le marin rentre.
Ouais. C'est quoi les conneries?
C'est des conneries, tout ça. C'est des conneries.
Digicode. C'est un des meilleurs sketchs de Jolivet, ça.
Jean-Louis, t'as pas le code de ma femme. C'est...
Non, mais vous n'allez pas me faire croire, vous n'avez jamais vu une ceinture de chasteté.
Non, jamais.
Olivier, vous avez eu.
Si, je crois que c'est une grande barre en métal plat. Je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que
t'as pas une idée ?
Mais tu peux pas la pousser.
Ah, c'est serré près.
Sois pas prétentieux.
Ah, mais tu peux. Pas avec le skeg.
Avec une bonne bite en acier.
On le surnomme le pied de biche dans le milieu.
Le chalumeau.
Mais quoi, c'est un truc qui peut pas se pousser, c'est ça ? J'en ai jamais vu, moi.
Bah c'est bizarre que t'en aies jamais vu.
Parce que...
Fabrice Eboué, on a déjà ouvert. On l'appelle Black & Decker. Non, franchement, ça existe, les ceintures de chasteté.
Oui, bah, ne me regardez pas comme ça. Moi, j'en sais rien. Vous savez, j'ai jamais vu ça. Hein.
Mais prenez une voix virile de temps en temps, beau grand.
Bah, qu'est-ce que je veux dire ? Je connais pas les ceintures de chasteté. On va dire les gonzesses, y a pas de problème. Ils m'ont jamais largué. Y'a pas besoin de mettre une ceinture de chasteté.
Voilà.
De toute façon, j'ai qu'à la renifler. Je me rendrai compte s'il y a eu du passage.
Ah oui, ça, c'est très masculin.
Non, mais tu m'as. Je me cherche.
C'est marrant comme certaines personnes, pour imiter les hommes, deviennent tout de suite ignobles. Incroyable, ça.
Retourne dans ton genre.
On va se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30. Laurent Ruquier.
Christophe Beaugrand, Florian Gazan, Christophe Le Chavanne, François Renucci, Titoff et Olivier de Kersauzon sont avec vous pendant 1h30 encore. Ah, une bonne nouvelle pour les fleuristes. Les Français continuent, remarquez, ils le savaient, eux, les fleuristes, mais c'est une enquête qui vient de tomber. Les fleurs continuent à très bien se vendre. Les Français continuent à acheter beaucoup de bouquets. C'est d'ailleurs la rose, hein, ça ne surprendra personne. La rose qui arrive en tête des fleurs vendues chez les fleuristes. 58,6%
malgré
des
Hollande,
ventes.
Quoi,
et malgré François Hollande, la rose reste leader des fleurs vendues chez les fleuristes. Mais quelle est la deuxième fleur ? Voilà ma question.
Les chrysanthèmes.
Non.
L'orchidée ?
Non.
L'orchidée, oui.
L'iris.
Non, alors si je vous pose la question, c'est parce qu'évidemment, c'est assez inattendu.
Le myosotis.
La tulipe arrive en quatrième position.
C'est pas l'orchidée.
Non, c'est pas l'orchidée.
Qui est devenu n'importe quoi. Il y a 20 ans, l'orchidée, il fallait avoir une serre, il fallait vraiment s'en occuper comme de sa chérie, etc. Et maintenant, c'est devenu un truc fait par des industriels en Hollande.
Vous voulez qu'on fasse une pétition ?
Non.
Non, mais je sens quand même.
Autant je suis contre les cadenas, autant les tulipes, je m'en tape grave. Donc, non, j'ai pas
de. Alors, c'est pas la tulipe.
La marguerite ?
La marguerite.
C'est pas les œillets ?
Non.
L'arôme ?
Non.
Le lys ?
Oh, comment vous savez ça ?
Je sais pas, c'est un nom de fleur.
Le lys, bah ! Bonne réponse de François Renucci. C'est l'espèce la plus vendue après la rose, le lys chez les fleuristes. Ça me surprend, moi, ça, quand même.
Mais moi aussi.
Bah, je sais pas, parce que je me vois pas arriver chez un fleuriste et dire « Donnez-moi un bouquet de lys ».
Merci, parce que c'est une des rares fleurs qui... Toutes les fleurs sont élevées industriellement en serre et c'est une des rares qui a encore de l'odeur.
D'abord, on va appeler un fleuriste, tiens, pour savoir. Ah, ouais. J'ai quelques listes là de fleuristes. On va appeler à Nice le jardin de Mozart. Ça, c'est joli, vous voyez. C'est mieux que les coiffeurs, les fleuristes, pour trouver un nom pour leur boutique. Ouais. Parce que les coiffeurs, c'est toujours.
Parce que la touffe à Ginette, c'est pas terrible.
Bah, ça, encore, au moins, ce serait drôle. Non, c'est toujours prépare.
La touffe à Ginette, bonjour.
Tiff Annie.
Ce serait pour une corbeille.
Allô?
Créatif.
Le jardin de Mozart.
Créatif, oui.
C'est bien ça, oui.
Oui,
c'est
bon.
Moi.
Ah, bonjour madame, je suis bien au jardin de Mozart. C'est Laurent Ruquier à l'appareil, vous êtes sur Europe 1.
C'est pas vrai.
Eh oui,
ah, c'est non.
Et on voulait vérifier une enquête qui a été publiée par le Parisien ce week-end, comme quoi la deuxième fleur la plus vendue après la rose. Ah bah tiens, je ne le dis pas. D'après vous, qu'est-ce que vous vendez le plus, à part les roses?
Les
lys. Les
lys. C'est incroyable.
Ça se confirme.
Incroyable. Alors, ça se confirme.
Moi, j'ai une petite. Et autant je ne mets pas souvent en doute ce que dit Olivier, autant là, j'ai un petit doute sur l'odeur. Est-ce que ça sent vraiment le lys?
Bah, c'est la
ça... Oui, le vrai lys sent.
C'est même entêtant, des fois. Voilà.
Tout à fait.
Ah.
Et la rose, pourquoi la rose ne sent-elle plus?
Parce que c'est plus une rose de jardin.
Parce que maintenant, elles sont travaillées pour qu'elles tiennent de plus en plus. Et plus en plus costaud, donc du coup elles sentent de moins en moins.
Mais vous avez des roses qui sentent, vous, de temps en temps?
On en a encore, très peu,
c'est
mais...
Et votre ceinture de chasteté? Non, pardon.
Et vous savez, Laurent, le pire qu'ils font, c'est que maintenant, il y a des roses qui sont parfumées artificiellement.
Bah, bien sûr.
C'est monstrueux. Ouais. C'est
surtout à la morue. Ou au camembert, moi j'en ai
pas. Ouais.
Mais parlez-moi plutôt du lys.
Alors,
toujours avec Pénélope.
Je suis très occupée là.
Quel est votre petit nom, votre petit prénom, Constance?
Valérie.
Ah, Valérie. Et pourquoi s'appelle le jardin de Mozart?
Parce que nous sommes dans le quartier des musiciens.
Ah, bon, vous souhaitez
une pourquoi vous dans le quartier des putes, ça serait appelé comment?
Bah, la touffe à Ginette.
Le jardin de Zaya.
Ne les écoutez pas, madame, je vous remercie. On fera beaucoup de pubs pour le jardin de Mozart qui vend des roses qui sentent bon et des lys tout autant. Ça vous va?
C'est très bien, c'est parfait.
Ben, on vous embrasse et on vous remercie, madame. On pourrait peut-être en appeler un autre pour vérifier.
Parce que
ça confirme pas une statistique.
Ah, quand même, ça pousse.
On va aller du côté de Montpellier, à la Loge aux Fleurs, à Montpellier.
À mon avis, c'est à côté d'un théâtre. Vous restez dans le sud, hein, Montpellier, oui. Nice.
Oui. Ah oui. Oui, parce que les fleurs, elles poussent mieux dans le sud que,
dans mon cul.
Sur le terril.
Mais il y a quand même des fleuristes à Lille. Hein.
C'est vrai.
Oui, enfin un ou deux. Ouais. Et encore sur le département.
Avec des fleurs mortes.
des fleurs tristes.
Allô?
Allô, Loge aux Fleurs, bonjour.
Bonjour, la Loge aux Fleurs. Ouais, je suis bien à la Loge aux Fleurs à Montpellier.
Oui.
C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1 avec toute l'équipe. Christophe de Chavannes, Olivier de Kersauzon, Titoff, Florian Gazan, Christophe Beaugrand, François Renoutio. Et on voulait savoir si l'enquête publiée par le Parisien était juste. Quelle est la deuxième fleur que vous vendez le plus après la rose?
La pivoine.
Ah!
J'en étais sûr.
On se doutait bien qu'il y avait un loup.
Alors, parce que eux, ils nous disent le lys.
Ça dépend en même temps à quelle période, parce que la pivoine, c'est une saison très courte qui dure mai-juin.
Ouais,
donc,
si on se
rend compte, là, il arrive même qu'elle devance la rose. Le restant de l'année, il n'y a pas de pivoine. Alors, à ce moment-là, le lys peut prendre la deuxième place, mais je le mettrai ex aequo avec le renoncule.
Et la pivoine
avec
le renoncule.
Avec le renoncule. Ah,
ça, il aime beaucoup.
C'est un code.
Une fleur très intéressante, le renoncule.
Ouais. Mais,
surtout quand c'est lisse.
Mais alors, pourquoi et en quelles circonstances les gens achètent-ils des lys? C'est ça qui me surprend.
Et roses.
À part pour voler, évidemment.
Il n'y a pas d'occasion particulière. C'est une belle fleur qui tient très longtemps. Il y a un mélange de couleurs qui est très sympa, puisqu'on l'a en jaune, en orange, en rouge, en rose, en blanc.
À quoi ça ressemble à un renoncule, une renoncule?
C'est une pivoine la plus petite.
Ah, ok, d'accord.
Et alors aujourd'hui, il y a du monde à la Loge aux Fleurs?
Ah, ben oui, comme d'habitude.
Eh ben très bien. Alors on va vous souhaiter une bonne journée. C'est quoi votre prénom?
Laurent.
Eh ben Laurent, de la Loge aux Fleurs à Montpellier. Ils sont très sympas, les fleuristes, vous voyez. On a pu vérifier. l'enquête du Parisien. Qu'est-ce qu'on appelle les choix difficiles aux États-Unis et le temps des décisions en France ?
C'est un film ?
Non.
Oh là,
c'est pas bête ce que vous venez de dire, Beaugrand.
Pour une fois, vous voyez.
Une chanson ?
Non.
Un hymne ?
Un non. Livre ?
Un livre ?
Un livre, ah, c'est le livre d'Hillary Clinton.
Le livre d'Hillary Clinton, bonne réponse, qui sort cette semaine en France.
Elle balance,
chez,
hein.
Chez Fayard.
Elle balance sur notre ex-président.
Ah, oui. Elle balance un peu sur Sarko.
Ah,
elle elle raconte pas des choses super passionnantes.
Bon, elle dit quand même que c'est une commère. Sarko, c'est rigolo d'imaginer que c'est un peu une concierge.
Que c'est un potin, qu'il adore les potins, ouais. Qui dit du mal de tous les autres chefs d'État.
Ça, c'est drôle.
Que l'autre, c'est un con, l'autre, c'est un merdeux.
Ah, elle raconte quand même un truc assez amusant et intéressant. Elle raconte qu'en avril 2010 à Prague, à un moment donné, Barack Obama l'a emmenée, elle était ministre des Affaires étrangères, elle l'est toujours d'ailleurs, hein, ouais. De Barack Obama, et à un moment donné, à Prague, en avril 2010, Obama l'emmène à l'écart, et là, il lui dit quelque chose à l'oreille. Que lui dit-il ?
Ta braguette est ouverte ?
Pas loin !
Tu veux ta jupe est fendue.
Non. Tu veux un cigare ?
Tu as un sein qui dépasse. Ouais.
Ton bras est filé.
Il lui dit, je voudrais discuter d'un sujet sensible.
Tu as du PQ qui passe sous ta jupe.
T'as une grosse feuille de salade entre les dents.
Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
C'est pas vrai. C'est génial.
C'est ça, il faut le dire. Ça, il y a plein de gens qui ne le disent pas, qui n'osent pas.
Bien sûr qu'il faut le dire.
Il faut le dire,
ça
absolument.
Aide, ça aide.
C'est vous dire quand même si le livre est passionnant.
Ouais. En fait, moi, ça m'intéresse.
C'était les meilleures feuilles en plus.
et la fois où elle avait une crotte de nez.
Non, c'est quand même incroyable.
Mais c'était quoi ce
Quel intérêt de raconter ça, franchement.
Non, mais il y a peut-être d'autres choses dans le livre. Tu l'as pas lu en entier.
Non, mais c'est aussi peut-être cette anecdote pour montrer qu'elle est finalement assez intime avec Barack Obama pour qu'il puisse lui dire t'as quelque chose entre les dents. Parce que ça, on ne le fait évidemment qu'entre personnes intimes.
Ouais, et elle lui dit, bah non, c'est une carie.
Je doute que François Hollande puisse dire la même chose à la reine d'Angleterre, par exemple.
Ah, oh, t'as vu ce qu'il a fait ? Vous avez vu ce qu'il a fait ?
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il y a le protocole français, ce qui est absolument scandaleux, intime au président recevant de s'asseoir avant son hôte, qu'il soit homme ou femme. Et donc la reine d'Angleterre, très pointue sur
l'étiquette.
Sur l'étiquette, oui. Et sur le régime protocolaire, on l'a présenté.
C'est surtout les, étiquettes de son fils qui sont très pointues.
Les oreilles.
Oui.
Oui, c'est ça. Et alors. Et voilà, ça recommence, putain, merde.
Ça fait trois fois, là.
Oui, ça y est. Oui, mais en même temps, vous êtes là, vous faites le trublion, là.
La suite dans la loge d'honneur.
Je crois qu'il faut qu'on appelle un médecin, quand même. Hein.
Et donc, elle est debout devant sa chaise. Hollande vient pour s'asseoir, puis finalement, il doit voir un pote ou je ne sais qui à droite. Et il se barre. Et la reine d'Angleterre est restée debout.
En attendant.
Pendant un vrai long moment, en attendant que le président Hollande revienne pour s'asseoir. Et quelqu'un a dû dire, dis donc. Faut retourner là-bas parce qu'il y a maman qui attend. Et là, on revoit, il revient en courant comme un fou. Hop,
elle attendait debout, la pauvre.
Elle attendait debout, oui, à son âge.
Ah, bah tiens, justement, j'ai une question sur le marché aux fleurs et la visite de la reine d'Angleterre. Pour quelle raison était-elle particulièrement émue et a-t-elle voulu faire cette visite du marché aux fleurs ?
Est-ce que c'est un rapport avec la guerre ?
Non.
Est-ce qu'elle avait rencontré son mari, Philippe. Le prince Philippe, au marché aux fleurs ?
Non.
Qui porte son nom maintenant. Parce qu'en fait, ils ont appelé le marché aux fleurs, le marché prince Philippe, quelque chose comme ça.
Le marché Elisabeth II, même maintenant.
Ah, Elisabeth II, c'est ça.
Et oui, mais.
Sa première visite à Paris ?
Alors, c'est vrai qu'elle était venue à Paris en 1948 avec le prince Philippe, mais c'est pas la seule raison.
Il lui a offert un bouquet de fleurs, il l'a demandé en mariage.
Non. C'est mais on se rapproche.
Des renoncules.
Il la ken.
Non.
Non, c'est Giscard. Ça.
C'est un lieu cher à son cœur qu'elle a découvert, le marché aux fleurs, en 1948. Et plus précisément.
Elle a fait sa demande en mariage.
Non.
Évidemment.
Elle a appris qu'elle était enceinte du prince Charles.
Ouais, elle n'a pas appris qu'elle était enceinte, mais.
Elle a fabriqué le prince Charles au marché aux fleurs.
Elle était enceinte du prince Charles. Bonne réponse de François Renucci.
C'est beau cette histoire.
Eh oui. Elle était enceinte du prince Charles quand elle a visité le marché aux fleurs. C'est beau quand même.
Il a eu du mal à passer, non ?
Non, oui, je pense qu'il y a une partie qui a
eu. Non,
du...
oreille gauche, tête, oreille droite.
C'était pas
difficile pour l'attraper, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il les a comme ça, c'est parce qu'ils ont un peu tiré au.
Une fois que la tête était passée, ça allait. Hein.
Ouais. C'est Olivier de Kersauzon qui a fait l'accouchement. Hissez le pavillon droit, hissez le pavillon gauche. C'est des expressions où vous.
Sûrement. Sûrement.
C'est une expression que vous utilisiez sur vos bateaux, ça.
Bah oui, dans la compétition moderne, c'est ça en permanence.
Bah oui, pas vite.
Alerte tout le monde sur le pont. Prenez vos sabres.
Et est-ce que tu fais aussi souquet, matelot?
Souquet, matelot. Armez les canons tribord.
Bah alors, non, mais alors, dites-moi les expressions modernes. Qu'est-ce qu'on dit à bord d'un bateau?
Qui sait la voie d'eau?
Bouge ton cul, connard.
Bouge ton cul, connard.
On parle plus. On parle
pas. Il y a le GPS qui déconne.
Sur les bateaux modernes, on parle pas.
Oui, c'est extraordinaire. Vous avez des casques avec
non,
des,
non,
des micros.
Non, non, mais juste par signe.
Tu parles que quand t'es en solitaire?
Non, non, je t'en parle pas. Je parle ici et encore.
ça, il faut le dire vite. Hein. Ça, il faut le dire vite. Hein.
En tout cas, elle est mignonne, la reine fleur au milieu des fleurs. Ouais, fallait la voir marcher tout
doucement.
Mignonne.
Elle était couleur pivoine, mais j'ai pas vu de quelle période exactement. Elle était un peu rose.
Les gens pensaient qu'il y avait un géranium qui marchait.
Mais elle change de couleur tout le temps. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'elle est quand même toujours élégante.
Ah, génial.
Et Anne Hidalgo était très élégante aussi, je dois dire, à côté d'elle.
Elle est moins colorée, Anne Hidalgo.
Ah oui?
Ah bah généralement.
Bah, imagine Anne Hidalgo habillée comme la reine.
Genre, non, mais oui, peut-être
ça
pas.
Ça serait dur quand même. Non,
autant de la Noé, je pouvais envisager, mais.
Coldplay sur Europe 1, c'est un nouveau morceau. Ghost Stories, c'est l'album. Magic, c'est le single. Hier, 9 juin, c'était un 350e anniversaire, puisque le 9 juin 1600... Ah ben non, je ne vais pas vous donner la date.
Ah ben c'est trop tard.
Ah ben parce que si je vous donne la date, ce serait embêtant. Jérôme Hatt obtenait un diplôme. Et c'était le 350e anniversaire hier de l'obtention de ce diplôme de Jérôme Hatt.
Oh là là.
Quel diplôme? Et oh qui fêtait ce 350e anniversaire?
Plus de questions.
Là, je comprends rien à la question.
Bon, trop compliqué. Hier, c'était le 9 juin.
Oui.
Bon.
Oui.
Et ben, il y a 350 ans,
il y a un mec qui avait un diplôme.
Jérôme Hatt obtenait son diplôme.
Ouais.
Quel genre de diplôme et pour quelle raison célèbre-t-on ce 350e anniversaire?
Électrophysicien?
Non.
C'est en France.
C'est en France.
C'est le premier baccalauréat, peut-être?
Non. Non, non, non. Non.
350 ans, ça nous met en quelle année, ça?
Ah ben justement, c'est
il y a longtemps.
C'était à la Sorbonne?
Non.
C'était une faculté française?
C'est non.
C'était un diplôme donné par le roi?
Non.
C'était peut-être CAP menuiserie?
Non.
Mais c'était en 1650 et des brouettes, hein, on est d'accord?
Voilà, à peu près. Ah,
oui. CAP esthéticienne.
Peu importe.
CAP plomberie.
Ah, peu importe. Oui, c'était mais en, non, parce qu'en 1650, il n'y avait pas plomberie, c'est ça que je veux dire.
Il n'y avait pas esthéticienne
non plus. Il n'y avait pas électromécanicien.
C'est un diplôme de course?
Non.
C'était un BEP?
Non.
Un BEP technico-commercial?
Vous êtes vraiment trop.
Un BTS, BTS électronique?
C'était un bac pro?
Vous êtes vraiment trop cons tous autour de cette table.
On cherche, hein.
Réfléchissez un peu, la réponse est dans la question. Franchement, souvent la réponse est dans la question.
350 ans.
Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, 350 ans plus tard?
Est-ce que c'est la première fois qu'on célèbre cette chose?
Oh, j'imagine qu'à peu près tous les ans, c'est un anniversaire.
Mais c'est la première fois, vu que ça fait 15 ans que vous faites ce métier. C'est la première fois.
Même
c'est la, oui, non, mais enfin, cette émission, c'est la première fois que vous en parlez.
C'est vrai, parce que là, il y a toute une page de pub dans la presse qui est parue.
Ah, de pub.
Oui.
C'était de la bière, 1664.
Bonne réponse de François Renucci.
Oui. Oh, il est fort.
350.
Il est fort et il est alcoolique.
Et oui.
Plus
c'est
le deuxième.
C'est pour ça que j'ai failli vous donner la date et puis hop. Je me suis ravisé au dernier moment, parce que si vous avez dit le 9 juin 1664, tout de suite vous m'auriez dit la bière.
Non, pas du tout.
Non.
On n'y aurait même pas pensé.
J'aurais pensé à 1515 Marignan, tu vois.
Eh bien, 1664, le 9 juin, Jérôme Hatt obtenait son diplôme de maître brasseur et ainsi débutait en Alsace l'histoire des plus anciennes des entreprises françaises. Cronenbourg.
La dynastie des brasseurs, tu vois. Et après, t'as eu Claude.
Pierre. Alexandre.
Non, mais c'est énorme. Tu te rends compte par rapport à 33 Export?
Ah, bah oui, parce que c'était en 1933, puis à l'étranger.
C'était à l'étranger.
Et Jet 27, c'est les gamins.
Ah, bah ouais.
Non, mais enfin, écoutez, arrêtez. 1664, c'est la Cronenbourg. La Cro, hein, comme on dit.
C'est la meilleure, moi, je dis.
Ah oui?
Ah, je l'ai redécouverte.
Ah bon?
Elle est simple, elle est bonne. De temps en temps, avec modération. C'est juste la meilleure.
Ah ouais. Augmente la dose.
Et en plus, elle a. En plus, elle a un bouchon vis.
Ça provoque pas les trous de mémoire?
Comment?
C'est laquelle votre préférée, vous, de bière? Alors,
j'aime pas du tout la bière, moi.
Ah, bah voilà, encore. Faites des trucs de mec de temps en temps.
J'aime la grenadine.
Oh, bah. Ouais, bah, oui.
moi aussi, je bois de la grenadine, jamais de bière.
Sans rire.
Oui, oui, j'ai de la bière, je bois de la grenadine.
Oh, une Carlsberg, c'est bon quand même, une bonne Carlsberg.
Ou une Heineken.
Ah, ouais, bonne... ah non, Heineken, non.
Ah, ah si, Heineken, elle est bien, elle est bien, elle est bien.
De toute façon, c'est normal qu'il y en ait plusieurs pour plusieurs goûts, parce que sinon, si on était tous là à aimer la même bière, c'est serait bien dans la merde.
C'est comme les femmes, il a beau pour tout le monde.
T'es con, toi.
Des blondes, des brunes et des rousses.
C'est tout le monde, il est con.
C'est tu peux prendre des chips ou des cahuètes avec.
Voilà. Des pistaches.
C'est bien, on est vraiment au bistrot oui, là en fait. Hein. Vraiment.
Pourquoi vous buvez jamais de bière, Olivier ?
Parce que j'ai pris une
cuite. Vous êtes tapé trop de mousse à bord ?
Non. Non, j'ai pris une cuite à la bière il y a longtemps.
Ah, une cuite à la bière, faut y aller, évidemment.
J'ai pris une cuite à la bière il y a 40 ans et depuis, j'ai pas bu de bière.
En tout cas, c'était un bel anniversaire, le 350e anniversaire de Cronenbourg. On a cité évidemment toutes les autres marques comme ça, on peut, hein, Canterbro, évidemment.
Ouais,
on a oublié le célèbre.
Maître Canter.
La bière qu'on préfère.
Non, on les a toutes faites. Hein. Franchement, on peut pas nous reprocher.
La bière italienne, Moretti.
Il y a l'EF, oui.
Il y a la Stella aussi.
Il y a la bière japonaise qui est très bonne aussi.
La Valstar.
C'est très bon, Asahi. Asahi, Asahi, très bon.
Et la 8-6.
Et en Thaïlande, il y a la...
Les masseuses.
Et elle fait de la mousse. C'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai, une petite bière à consommer avec modération,
ouais.
C'est toujours idéal pour se désaltérer dans ces périodes de canicule difficiles.
Faut bien
dire.
Sûr. Écoute, oui, mais non. Non, en revanche, on peut offrir des renoncules pendant cette période de canicule.
Oui. Il va vraiment pas bien. Hein.
C'est plutôt des chrysanthèmes si la personne est âgée.
Il y a des bières brésiliennes.
Il est à deux doigts de la bière.
Je fais l'émission en rime.
Hier, on avait un pied au bord du gouffre. Aujourd'hui, on a fait un grand pas en avant.
Il y a des bières au Brésil ?
Oui.
Oh là.
Mais c'est un truc comme ça.
Ah ouais. Et d'ailleurs, on dit la bibite. La bibite.
Oui, bien sûr, la bibite à Jojo.
Non, mais oui.
Comment ça, la bibite ?
Bah, c'est une bibite, la bouteille, c'est la bibite.
Ah ouais.
Vous demandez une bibite de bière ?
Non, une bibité.
Ah, une bibité.
Bibité, je crois. Oui.
Ah, je crois que je vais avoir des problèmes là-bas.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Sabine est à Albertville, Frédéric à Montréal. Alors d'abord, faisons connaissance avec Sabine, même si évidemment ça coûte un peu plus cher pour Fred. Mais vous saurez patienter, Frédéric.
Oui, il n'y a pas de problème.
Bon,
ah, bah, jusqu'à demain, Frédéric.
Il a l'air joyeux.
Que faites-vous, Sabine, à Albertville ?
Bonjour.
Bonjour.
À tous les chroniqueurs, bonjour à vous.
Bonjour,
Laurent.
Sabine. Ben, bonjour.
Voilà, je suis étudiante, en fait. Donc, je suis en vacances à Albertville.
Mais étudiante en quoi ?
Horticulture, Sabine.
Non. Je suis étudiante en sciences politiques à Paris. Et là, je passe mes vacances dans de la famille à Albertville.
Ah, très bien. Il fait beau à Albertville aujourd'hui ?
Il fait très, très beau, oui.
Bon, et vos études se passent bien à Sciences Po ?
Très bien, très bien, oui.
Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard après Sciences Po ?
Je vais être avocate, voilà.
Ah bon ?
Vous avez des chouchous dans la bande, Sabine ?
Bah oui, vous, évidemment, Monsieur Ruquier.
Ah merci, et... Sabine.
Ah, la lèche-cul.
On dit maître.
Enfin, t'as pas un autre mot ?
Non, et sinon, j'aime bien Christophe de Chavannes et Christine Bravo.
Bon, Christine, qu'on embrasse, hein, qui devait être là aujourd'hui, mais que Florian Gazan remplace au pied levé.
Quoi ? Ah ouais,
c'est vrai. Et faisons connaissance maintenant avec Frédéric, qui est donc à Montréal. Comment ça va ?
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Ah, mais n'est pas l'accent québécois,
c'est un français, visiblement.
Il a l'air timide. Hein.
Non, j'ai pas l'accent québécois.
Qu'est-ce que vous faites là-bas, alors ?
J'étudie le commerce à Montréal.
Eh ben, mais vous êtes heureux là-bas ?
Ça se sent.
Ben oui, je suis très heureux. C'est vraiment la belle vie.
Vous vivez où à Montréal, Frédéric ?
Je vis dans le centre-ville.
Dans le centre-ville ?
À Montréal.
Et, c'est centre-ville de Montréal. Et c'est l'éclate ou quoi ?
Oh, c'est top.
Il paraît que c'est très, très
c'est
fun.
Frédéric ?
Oui, c'est très bien, surtout l'été.
Ah bah évidemment.
Ouais. Ça sent trop. Donc là on est au printemps apparemment.
Frédéric, surtout pas d'efforts supplémentaires. Gardez votre énergie pour la question.
Gardez-en sous le pied.
Sabine, vous avez toutes vos chances. L'hôtel relais avec le décalage horaire, le pauvre. On l'a réveillé en pleine nuit, vous imaginez.
Et surtout qu'avec en plus les infos.
Chut. Et justement, c'est l'hôtel relais du silence.
Ah bah c'est bien.
Qui vous propose un week-end. Le château de Beaulieu, précisément. Cette semaine, les hôtels relais du silence vous font découvrir le charme de leur demeure de caractère. J'en peux plus. C'est imitant, mais tout.
De mer,
il n'est pas bien.
Une page entière de texte.
Ah, bah, faut le lire. Christophe a envie de le lire.
Ah, oui. En plus, il est rapide, Christophe.
C'est pour,
vas-y. Pour deux secondes.
Allez, cette semaine, les hôtels Renaissance font découvrir le charme de leur demeure de caractère.
C'est le réussi lorsque le château de Beaulieu, un hôtel 3 étoiles à Jouer les Tours, à 5 km de Tours, qui vous accueillera pour un séjour
de nuit.
Quelqu'un veut une croix? Ouais. C'est un séjour 3 nuits, 2 jours. Non, 3 jours, 2 nuits, en formule petit-déj avec un dîner pour deux. Vous êtes deux?
Ouais.
Merci. Niché au sommet du coteau du Cher, le relais du silence, le château de Beaulieu, c'est du gentil Homer. Tac, tac, tac. Un espace bien-être.
J'ai pas écrit ça, tac, tac, tac.
Un espace bien-être avec le bassin de nage hydrosensoriel.
Oh, c'est bien ça.
Ouais, c'est un jet d'eau dans le cul. Voilà, c'est ça. Le château. Le château de Beaulieu est membre du relais silence château, membre du réseau relais silence 200 hôtels de caractère, 200 hôtels de caractère en Europe, au cœur de la nature, www.relaisdusilence.com. Mais il y a un truc qui m'épate, j'ai vu d'ailleurs que les syndicats hôteliers étaient en Renault contre tous ces intermédiaires en fait sur le net.
Colle au texte s'il te plaît. Ah, ouais. C'est vrai
que c'est pas dimanche c'est
la... non, parce que si en plus vous voudrez rajouter
dimanche cette semaine les perdants repartiront avec un grand fait.
Ah non, ça c'est après. Ah ça c'est une fois qu'on saura si, s'il y a un perdant. Remarquez, c'est con, il y en a toujours un.
Ouais, général, ouais.
Même parfois il y en a deux. Parfois il y en a deux.
Alors place au Canada libre et vive la jeune fille. Allons-y.
Sabine, Frédéric, voici la question. Je vais vous donner un score. Vous allez devoir me dire à quoi il correspond. 50-23. Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. 50-23.
Ça correspond à l'Australie-France en rugby.
Bonne réponse de Frédéric.
Faut se méfier de l'eau qui dort.
50-23, pendant que les footballeurs faisaient quand même, il faut le dire, un score magnifique, 8-0, c'est assez rare en foot. Je crois qu'en rugby, 50 points dans la vue, c'est assez rare aussi.
C'est une branlée.
Eh oui, une branlée. Bon, ils en ont marqué 23, vous direz presque.
Ils en ont marqué 23 aussi.
Presque la moitié. Bon, enfin, quand même, 50-23, les rugbymen français ont perdu lors de ce test match contre l'Australie. Le sélectionneur PSA, c'est le nom du sélectionneur.
Philippe Saint-André.
Philippe Saint-André, le sélectionneur a dit que c'était quand même une leçon que les Français avaient pris. Dès qu'on a fait une erreur, on a pris un coup sur la cafetière, dit-il. Bravo Frédéric, le rugby est arrivé jusqu'à Montréal.
Oui, exactement. Merci beaucoup.
Merci Frédéric.
Mais, si vous permettez, Malika partira pas les mains dans les poches.
Mais non, car c'est la fête des pères.
Vous avez un papa?
Ah merde, je crois que t'as fait une boulette.
Vous êtes malentendante?
Non.
Non, vous avez pas de papa.
Oui, j'ai un père.
Ah bon, très bien, vous avez un papa. Eh bien, vous lui faire le plus beau des cadeaux. Il y a Clarence qui vous offre la trousse Clarence Men de l'homme idéal. Une eau dynamisante méga flacon. 500 millilitres. Là! Un gel au baume hydratant. Paf! Un nettoyant exfoliant et une huile de rasage Clarence Men. Oui, yalla! Un sérum anti-rides pour les yeux, un déodorant Roll-On antiperspirant que va nous rendre Florent Gazan dans 5 minutes.
Je crois que ça y est, j'ai trouvé
essayé,
ma Julie.
Ça marche.
Et un UV plus, écran jour haute protection pour le visage et un spray solaire. Bonne fête et longue vie à la peau des hommes. Non pas à la peau des hommes, ce qui n'a rien à voir.
Bravo Frédéric, c'est vous le gagnant en tout cas. Une question culturelle, comme j'aime à vous en poser de temps en temps, ça fait du bien. Et
Oui, j'en ai pas l'habitude.
Et si vous avez feuilleté la presse, qu'elle soit hebdomadaire ou quotidienne, forcément le nom de ce peintre ne vous aura pas échappé.
Oh, ouais.
Peintre qui s'est suicidé à l'âge de 41 ans, se jetant de la terrasse de son atelier d'Antibes. Peintre exposé non seulement au Havre, mais aussi à Antibes. Il y a deux expositions en même temps. Il faut dire aussi, c'est toujours un anniversaire, il n'y a que des commémorations partout. Là, c'est plus à Bière-Cronenbourg. C'est le centenaire de la naissance de ce peintre. De quel peintre s'agit-il ?
Un Français ?
De sa naissance.
Un Français. Vous le savez, Olivier ?
Non, j'y ai pensé. Je crois que je le sais, mais je n'ai pas trouvé à cette heure-ci. Je suis fatigué. Je pense que je le sais, oui.
Alors, allez-y.
Non, mais je pense que je le sais. Ça ne veut pas dire que je peux le formuler. Mais
vous pensez savoir qu'éventuellement, vous pourriez le formuler ?
Attends, l'autre Alzheimer qui lève la main, là. Ah, je rêve.
Olivier.
Non, mais vous savez bien ce que c'est. Les grandes fatigues.
Oui.
À un moment donné, vous avez la perception que dans l'ensemble de vos connaissances, vous avez la possibilité de retrouver. Et puis tout à coup, une vague de paresse vous submerge. Et vous restez somnolé. Voilà, c'est la nature humaine.
Toi, c'est pas une vague, c'est un tsunami.
Alors, mon peintre, alors.
Alors, moi, je connais rien en peinture, là, j'en sais rien. On connaît tous son nom, oui, il aurait fallu lire les articles.
C'est le centenaire de sa naissance.
Je ne serais pas aussi présomptueux.
Donc, il est mort. Est-ce qu'il est mort très âgé?
Ah ben, je vais vous dire, il est mort en 1955.
Il avait 41 ans.
Il avait 41 ans. Je vous l'ai dit, c'était dans la question d'ailleurs. Il s'est jeté de la terrasse de son atelier d'Antibes.
Ah, mais il est mort de quoi?
Par dépit amoureux.
Il y a deux peintres, on en a pas mal parlé depuis 3 semaines. Il y a Soulage et lui, donc il faut
maintenant
pour le retrouver
Satine.
Lui.
Non. Eh oui, c'est là où on voit quand même le manque le manque d'inculture, ça y en a pas.
Est-ce que c'est un peintre coté, comme on dit?
Ah oui.
Il y a une génération de Montparnasse, c'est ça.
Et je trouve ça plutôt joli d'ailleurs.
Est-ce que du genre, il a des avenues?
C'est de quel genre?
Il y a plusieurs pages dans Marianne.
Vous pouvez nous aider, de quel genre?
Il a d'abord fait plutôt dans l'abstrait, petit à petit, il est venu vers la figuration.
Ah ouais. Il a joué dans quel film? Modigliani.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, moi
À mon avis, on va durer jusqu'à 18h30 avec cette question.
Il y a une exposition qui regroupe ses dernières œuvres au musée André Malraux.
Moi, je suggère un rébus.
Mais aussi à Antibes, là où il s'est suicidé.
C'est Matisse, non?
Non, c'est pas Matisse. Non, mais ça dèche, c'est un peu de musique classique. Ou un peu de peinture, là.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
La musique
c'est
classique,
pas vrai.
On est là. Non,
la musique classique, on est là sur classique.
Non, le chauffe pas, il va nous faire de la classique.
Non, tu vas voir, on sera là.
Bon, moi, je pense que
plutôt la peinture à l'huile.
La peinture à l'huile.
Mort à 41 ans.
Je
suicidé,
peux vous montrer quelques huiles.
Ah oui, ça
je veux bien.
Allez, je vais vous montrer un tableau. Ah, voilà, ça c'est pas mal parce qu'on va avoir vraiment vos connaissances. Je vais découper le tableau. Voilà. C'est pas le vrai, hein, je le dis pour les auditeurs.
T'imagines le mec qui découpe la Joconde.
Je vais faire passer la Joconde.
Voilà, faites passer le tableau de ce peintre.
Ah, c'est lui.
Voilà, ça devrait vous aider.
Ah oui, ça nous aide beaucoup. Oui.
Il y a plusieurs pages dans Marianne.
Mais cette semaine. Là, il avait quel âge?
Il y a deux pages dans Libération ce matin. Et oui, il est exposé à la fois au Havre et à Antibes. Bah, pendant ce temps-là, hein, pendant que vous réfléchissez, je peux vous donner même les dates des expos. Hein. Au musée d'art moderne André Malraux, c'est jusqu'au 9 novembre au Havre. Et à Antibes, c'est au musée Picasso jusqu'au 7 septembre.
C'est joli.
C'était un Français?
C'est un Français, oui.
C'était pas Nicolas Staël?
Vous venez de le voir.
Nicolas de Staël?
Vous venez de le voir.
Il semblerait que ce soit Nicolas de Staël.
Nicolas de Staël.
C'est marqué dessus. Parce que là, sinon, on est là pour trois, on est là pour deux heures.
Le mauvais tricheur.
Non, mais c'est comme Kersozon, ça m'est.
Ouais. Je savais même pas le prononcer.
Non, en plus.
Et en tout cas, si c'est pas du Nicolas de Staël, ça y ressemble. Hein.
Bonne réponse de Christophe de Chavannes.
Quoi?
Et Titoff. Bah oui, parce que de Chavannes, au moins, il a su le prononcer, vous voyez, Nicolas de Staël.
Bon, on avec l'accent,
non, là, on prononce pas de
comme
Staël.
Madame, comme madame.
On dit Nicolas de Staël.
Eh bien, bah, vous auriez mieux fait de dire là.
Non, mais j'avais dit, c'était, on avait parlé de deux personnes dans les trois mois où qui sont passés, Soulage. Et l'autre, ça commençait aussi par un S. Je ne me souvenais plus de lui.
Nicolas de Staël ou de Staël, je ne sais pas comment vous
dites. De Staël,
Nicolas de Staël.
Comme
ça revenu. Heureusement que ça m'est revenu parce qu'on était parti pour 3 heures là.
Ça vous est revenu parce que au moment où j'ai découpé, vous avez vraiment lâchement profité du moment où j'ai découpé l'article pour regarder le reste de l'article. Et ça, c'est pas beau, Titoff.
Mais non, mais il a raison. Faut qu'on en sorte.
Titoff a un appétit de culture qui est louable.
Soulage.
Ouais, Staël, voilà.
Non, c'est un peu la génération de.
Quand même, vous auriez
Montparnasse. Il faisait partie de l'équipe des mecs de Montparnasse.
T'enflamme pas non plus, hein.
Fais gaffe, c'est écrit petit quand même, hein. Fais gaffe,
tu vas déraper.
Non.
Tiens-toi là.
Cette période d'ailleurs.
Ed Sheeran, je sais pas si vous connaissez.
Ah oui, c'est bon, c'est le tube de l'été, la Sing. Elle est géniale, la chanson.
Franchement.
Ah ouais, c'est combien.
C'est ce sur quoi on va danser tout l'été.
Quasi sûr.
C'est un chanteur britannique qui a 23 ans. L'album X sortira le 23 juin prochain. Pour l'instant, donc, le tube, c'est Sing, Ed Sheeran.
Sing. Europe 1.
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Paul Vermus a-t-il le résultat des enquêtes que je lui ai confiées? Comme chaque année, le dîner en blanc aura lieu et c'est au mois de juin généralement. Et précisément cette année, le 12 juin, les organisateurs ont annoncé la date, mais comme de coutume, ils n'ont pas annoncé le lieu, l'endroit, qui sera communiqué sur Internet au dernier moment, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de monde quand même. Mais 10 000 convives sont attendus à ce dîner en blanc qui aura lieu où? L'année dernière, c'était à la Fontaine du Trocas. Cette année, Paul?
Ouais, enfin, tous les cas, c'est la 26e édition. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
En exclusivité sur Europe 1, l'adresse du dîner en blanc.
Ce qu'il faut faire pour trouver le lieu, c'est déjà voir tous les lieux où ça a eu lieu, justement. Alors, ça a eu lieu sur le parvis de Notre-Dame, vous oubliez donc le parvis de Notre-Dame, ça a eu lieu place des Vosges, ça a eu lieu cour carré du Louvre, ça a eu lieu même à l'orangerie du château de Versailles, au Champ de Mars, au Bois de Boulogne, au Champs-Élysées, place Vendôme, etc., etc.
Bon, alors, moi je vous demande cette année.
Il y a deux lieux, parce que les organisateurs du fameux dîner en blanc ont toujours un plan B. Alors j'ai quand même appelé le ministère de l'Intérieur.
Vous allez nous cracher le lieu, oui ou merde.
Le ministère de l'Intérieur m'a dit, écoutez, si vous l'avez, soyez gentil de nous le communiquer. Je lui dis, moi j'ai la délation, je connais
genre.
Pas. Alors je vais vous donner en exclusivité.
Genre les RG, ils demandent à Vermus, tu sais.
Non, alors, le plan A, c'est-à-dire là où ça doit avoir lieu, Ce sont les voies piétonnières sur les berges, rive droite, en face du quai d'Orsay.
Ah oui.
Très voilà. Bien. Et le plan B ? Et
c'est le parvis de la Défense.
Ah. Donc il leur faudra un plan C maintenant.
C'est plus sympa les berges.
Peut-être qu'il faut un plan C maintenant, vous avez raison, parce que je les mets dans l'embarras, encore une fois à cause de vous, Laurent.
Eh oui, j'imagine, mais en même temps, c'est du bon travail, là, ce que vous venez de faire, Paul, vous savez.
Eh oui, je sais bien, mais enfin, écoutez, moi, je ne peux plus me promener dans la rue maintenant, c'est très difficile.
Un point complet sur les doyens de l'humanité. Est-ce que le plus vieux qui est mort était vraiment le plus vieux, et qui devient le plus vieil homme du monde, la plus vieille femme du monde? Qui est le plus vieux des plus vieux, la femme ou l'homme, et celui d'Europe?
Alors, attendez. Alexandre Misch, le plus vieil homme du monde, américain d'origine polonaise, est mort à 111 ans dans son appartement de Manhattan à New York. Un ça boulanger. N'était pas le plus vieil homme du monde.
Ah, voyez ?
Le doyen de l'humanité, vérification faite, s'appelle Camelo Flores Lora. Il a 123 ans.
Oh là.
Selon les registres officiels boliviens, hein,
on a vérifié. Ah, mais oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a des doutes.
Il vit dans
les
Andes. À plus de 4000 mètres d'altitude.
Mais alors pourquoi on nous parle de ce vieux monsieur, de ce jeune homme de 111 ans alors, s'il y en a un de 123?
Eh bien, c'est une escroquerie médiatique, voilà ce qu'on peut dire.
Ah, ben voyez.
Et le secret de Camelo Flores Lora, c'est la feuille de coca qu'il mâche depuis toujours. Jamais de médicaments, et dès qu'il peut danser un peu, il danse un peu.
Ouais, voilà, tu m'étonnes, la feuille de coca, il est foncedé toute la journée.
Vous êtes sûr que c'est pas Parkinson, Paul?
Non, je vous dis qu'il danse. Vous savez que dans les Andes, c'est très rythmé, il y a de la musique.
Il y a la flûte de Pan,
il y a la flûte de Pan.
Comment ça, on danse dans le métro?
Comment tu sais ça? Ils ont une villa, les Balkany, là-bas, ou quoi?
Bon, alors maintenant, vous m'oubliez avec les Balkany, s'il vous plaît. Je commence à en avoir plus cassé.
C'est Gazan, monsieur, c'est Gazan.
Alors, la doyenne de l'humanité, Gazan, vous qui êtes un ignare, elle s'appelle Misao Okawa. Elle a 116 ans.
Ouais.
Elle ne se nourrit que de sushis.
Mais non, attendez, c'est idiot, Paul. Vous venez de vous contredire à l'instant. Ça ne peut pas être la doyenne de l'humanité à 116 ans, puisque vous venez de nous dire qu'il y a un Bolivien qui en a 123.
Ne me cassez pas la tête, je vous parle des femmes cette fois-ci.
Bah.
Voilà, le plus vieil homme, la plus vieille femme. Alors je dis la doyenne de l'humanité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Donc la doyenne n'est pas la doyenne des femmes alors.
Misao Okawa,
oui.
Elle se nourrit que de sushis, de ragout de bœuf.
Non, on s'en fout de ce qu'elle mange. Donnez-moi juste...
C'est difficile quand même, elle adore les spaghettis.
C'est important.
Alors vous me demandiez avec beaucoup de délicatesse...
Tu te rends compte
que... Laurent, quelle est la doyenne de l'Europe?
Ah.
Eh bien, j'ai une triste nouvelle.
C'est Julie,
l'année dernière, la doyenne de l'Europe.
C'est Julie.
La doyenne de l'Europe était un produit français. C'était une Bretonne, Marie-Thérèse Bard. Ah, elle a perdu le titre avec beaucoup de regret, puisqu'elle n'est plus de ce monde.
Ah, bah oui,
et ce titre revient à l'italienne Emma Morano, 115 ans.
Nadine Morano,
Non, Emma Morano. Ah,
attendez, je fais un point. La plus vieille femme d'Europe a 115 ans. La plus vieille femme du monde, 116, c'est ça?
Oui.
Le plus vieil homme, 123.
Et le
plus vieil homme d'Europe,
123.
Alors là, je vais vous dire, je ne l'ai pas, mais j'ai la doyenne des Français quand même, ça change tous les ans. Olympe Amaury, 113 ans. Je peux vous distraire, mais aussi je peux vous cultiver. Selon la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, on a 1000 centenaires de plus chaque année.
Il y en a combien aujourd'hui en France alors?
16 273.
Oh, voilà.
272.
Il avait préparé la question là.
Oui, non, mais avec vous, vous savez,
c'est
vous
beaucoup quand même.
Quand même hein.
Nicolas Sarkozy en Suisse. Que s'est-il passé pour que les Suisses soient fâchés après l'ex-président de la République suite à sa participation au Swiss Economic Forum?
Bon, alors écoutez, l'ex-président de la Confédération s'appelle Adolphe Ogi.
Oui.
Il lui reproche un manque évident de respect à l'égard de son pays.
Pourquoi?
Alors, son intervention a laissé de sacrées traces. D'abord, on va commencer par ses exigences, ses caprices. Il a demandé à ce qu'il n'y ait ni caméra, ni photo pendant l'intervention et qu'aucune question de politique intérieure ne soit posée. Adolphe, qui est l'ex-président de la Confédération helvétique, Adolphe n'a pas supporté que Nicolas Sarkozy transforme en réalité ce qui devait être un débat en un one-man show. Alors il a fait son numéro et il s'est montré en fait très critique envers le système politique suisse. Il a expliqué que la Suisse devait entrer au plus vite dans l'Union européenne et qu'un pays ne peut pas être gouverné par un président qui change chaque année. Alors Adolphe a déclaré au Matin, qui est le grand quotidien, que Nicolas Sarkozy a été trop loin. Et l'éditorialiste du Matin a écrit «
Bonjour.
Chez nous, on se tient comme il faut ». On essuie ses talonnettes avant d'entrer et on ne pisse pas contre le sapin.
L'ex-président de la République a pissé contre le ministre du Travail.
Vous savez qu'on aime faire des exercices de style, on aime bien manier la langue. Alors ce Suisse, cet éditorialiste suisse, s'est amusé, il a fait ce qu'on appelle de l'humour. On essuie ses talonnettes avant d'entrer et on ne pisse pas contre le sapin. Ça veut dire, et je vous le traduis, on se tient bien quand on vient chez nous.
Mais bien sûr, ça veut dire on fait attention à la vessie.
Voilà. Et on les prend pas pour des lanternes.
Faut laisser les vessies aussi propres qu'on les a trouvées.
Exactement, tout simplement. Paul.
Ouais, Laurent.
On va pas insister.
Je crois que c'est pas la peine.
Non.
Honnêtement, c'est pas la peine.
Mais est-ce que résultat des courses, il a été payé quand même, j'imagine.
Ah oui, ça c'est bien. Oui, bonne question.
Bah bien sûr qu'il a été payé. Pourquoi il serait pas payé? Il a fait une heure et quart de one man show, ça se paye. Hein, tout travail mérite salaire. Qu'est-ce que vous croyez?
Ah, mais
et c'est un salaire qui est entre 70 000 et 100 000 euros. Hein.
Ah, bah je crois que je vais reprendre le one man show.
Bon, bah pizza Balkany. Hein.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Bonsoir, invité d'honneur, bienvenue.
Bonsoir.
Votre voix est déformée, mes camarades vous posent des tas de questions, en attendant évidemment qu'Olivier de Kersauzon vienne vous rendre sa visite habituelle, et tout à l'heure il vous décrira physiquement, mais d'abord, nous n'avons que vos réponses pour tenter de vous identifier. Quand je dis nous, il ne s'agit pas de moi, moi évidemment je sais qui vous êtes, mais c'est à mes camarades de chercher.
Vous êtes un garçon?
Oui.
Vous êtes un garçon de plus d'un mètre 80?
Vous êtes un garçon.
Ah tiens, je vous voyais grand, moi aussi.
Vous êtes un garçon de moins d'un mètre 60.
1m76.
1m76, oui, c'est presque
correct,
80,
c'est
ça va.
Correct. On vous a reconnu dans la rue lorsque vous êtes arrivé cet après-midi?
Oui.
Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'un peu people qui fait la couverture de magazine?
Ça m'est arrivé, mais ça n'est plus d'actualité.
Vous avez des enfants, donc?
Un fils.
Et il a passé son bac il y a longtemps?
Oui, 7-8 ans, à peu près.
Ah, ouais.
Vous avez fait votre service militaire?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on vous connaît notamment pour votre voix, invité?
Ah, on peut dire oui.
Merci.
Alors moi, j'entends un invité qui fait de bonnes liaisons.
Ah oui, oui.
Et donc c'est un invité qui est habitué probablement à s'exprimer, utiliser, à avoir une bonne élocution. Et donc c'est un invité qui probablement est à la télé et nous fait part peut-être de nouvelles de temps en temps.
Est-ce que vous donnez des informations?
Pas du tout.
Pas du tout. Voici un premier indice musical. From now, address unknown. I shall be difficult. Bon, vous avez tous reconnu
Amanda Lear.
C'est le premier indice.
Just follow me.
Ouais.
Vous connaissez Amanda Lear?
Exactement.
Alors, je vous repose la question, est-ce que vous êtes un homme?
Est-ce que vous avez fait votre service militaire, mais est-ce que c'était avant qu'Amanda Lear?
Est-ce que vous aussi,
vous avez joué dans la même équipe de foot ou de rugby qu'Amanda Lear?
En tout cas, vous comprenez bien cet indice, invité.
Oui, tout à fait.
Et oui.
Et pour cause, c'est que vous y avez participé.
À Amanda Lear?
Non.
Vous êtes chirurgien?
à cette œuvre.
Bouché, éventuellement.
Il vous en reste un morceau?
Oh non!
Vous êtes compositeur?
Non.
Est-ce que vous...
c'est quand même 40 ans de blagues sur Amanda Lear, quand même.
Est-ce que vous avez beaucoup...
Compte, c'est quand même... C'est
la pauvre.
Ah ouais. C'est 40 ans de blagues.
Elle n'en verra pas le bout.
La seule chose que je puis dire, éventuellement, Laurent, c'est que... quand j'ai croisé Amanda Lear, Christophe l'a croisé également.
Mais vous, là, vous parlez trop, là.
Donc j'avais fait un plan à trois.
Là, vous parlez trop, invité d'honneur.
Pardon, vous étiez à la pissotière.
Voici un deuxième indice musical. Nelly Pompon, c'était pas bidon, c'était du béton. Nelly Pompon, c'était le tonnerre, un vrai bulldozer. Quand elle tapait dans le tas, on est de bonne humeur sur Europe 1 cet après-midi. On revient avec cet indice dans un instant après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Nelly Pompon, c'était pas bidon, c'était du béton. Nelly Pompon, c'était le tonnerre, un vrai bulldozer. Quand elle tapait dans le tas, c'était la bérésina.
Qu'est-ce qu'il y a, Tito?
J'étais dans le pompon à la peau, j'ai dit, mais non, Annie Cordy, Amanda Lear en indice. Et Christophe Bourgogne sortait, il fait, mais c'est moi l'invité mystère.
Olivier de Kersauzon, et je crois, est arrivé dans la loge d'honneur près de notre invité. Olivier, pouvez-vous nous le décrire? D'abord, est-ce que vous le connaissiez?
Oui.
Oui,
je le connaissais. Il a des chaussures noires qui brillent.
Ah, très bien. Ah.
De...
Ça va nous aider, ça ?
Il a de l'argent.
Il est... Non, ça fait proxénète rural, plutôt. Mais sympa. Il a un beau... Il a un jean propre. Un petit gilet de notaire. Ça lui va comme des guêtres à une chef, d'ailleurs.
Et, sinon, sympa.
Il a une veste bleu marine légère, un beau sourire.
Olivier, il est plutôt blond, brun ou pas de cheveux ?
À l'avant, il y a moins de cheveux. À l'arrière, ça a commencé à bien blanchir.
C'est Chris Waddell.
Il était plutôt châtain, à mon avis.
D'accord.
Châtain avec des yeux profonds, un beau regard, une certaine douceur.
Et devant, rien du tout sur le caillou.
Devant, si, c'est, il n'est pas non plus... Il reste quelque chose, mais pas grand-chose.
C'est pas une piste à mouche, quoi.
Y a cheveux longs ?
Non.
Il n'y a pas une frange, quoi.
Invité d'honneur, est-ce que vous travaillez dans le monde de la musique ?
Oh, belle question.
Oui. Ah oui ?
Oui.
Est-ce que vous êtes sportif ?
Oui. Est-ce non, on vous... a dit invité d'honneur, arrêtez de parler, Olivier de Kersoson.
Est-ce que vous avez écrit des chansons ?
Non.
Vous en avez chanté ?
Ça m'est arrivé pour des
chansons. Est-ce que vous avez fait beaucoup de télévision à l'époque où on avait le droit encore de fumer à la télé ?
Ah oui, tout à fait.
Oui, voilà.
En tant qu'invité ou en tant qu'animateur ?
Les deux.
Ah.
Les deux ?
Vous avez été présentateur de télévision ?
Oui.
À la même époque que Christophe de Chavannes et qu'Amanda Lear, c'est ce que vous disiez.
Oui.
Donc vous avez travaillé sur TF1.
Oui.
Alors, c'était des émissions de variété ?
Oui.
Mais attendez, vous dites qu'on s'est croisés, pardonnez-moi, vous étiez donc invité ?
Non, pas seulement.
Vous étiez co-animateur ?
Non, mais on s'est croisés souvent sur des mêmes réseaux.
Sur des mêmes réseaux.
Il y a des choses.
Attends, on peut parler de cul là.
On peut dire quand même quelque chose de un gros indice pour Christophe. On peut dire qu'il y a des choses que Christophe sait faire que vous savez faire aussi.
Exactement.
Voilà.
Bah, je vois ce que c'est.
Oh là là.
Il y a beaucoup. Hein.
Bravo Christophe Beaugrand. Vous avez d'ores et déjà identifié notre invité d'honneur. Vous êtes le seul pour l'instant, car Florian Gazan propose Michel Field. Êtes-vous Michel Field ?
Non.
Voilà un papier.
Christophe de Chavannes propose Michel Drucker. Ah, vous pensez à l'hélico. Vous faites de l'hélico tous les deux et ce serait donc Michel Drucker. Mais non, ce n'est pas Michel.
Je vais proposer Alain Prost alors.
François Renucci. Oui, bravo François. Vous avez trouvé vous aussi notre invité. Ça en fait deux autour de la table. Et Titoff propose Je suis Julien Lepers. Non, je ne suis pas Julien Lepers.
Oui. Est-ce qu'on a fait le même métier
Ça semble clair pour tout le monde maintenant. Ouais. Mais il a quand même donné une précision supplémentaire qui aurait dû vous aider.
Est-ce qu'il joue de la musique ? Vous jouez d'un instrument ?
Oui.
Voilà. Ah, vous jouez d'instrument et même vous vous produisez sur scène ?
Oui.
Florian Gazan et Christophe de Chavannes ont trouvé eux aussi. Il ne manque plus que Titoff autour de la table.
Tu as dû trouver aussi, je pense.
Titoff, oui, donnez-moi votre... Hop.
Propose Nicolas Destel.
Et Titoff.
De Staël.
Titoff a trouvé aussi. Alors voilà, notre invité d'honneur qui va nous rejoindre dans un instant après la pub, ce sera...
Christian Morin.
Christian Morin est notre invité d'honneur. Il vient nous présenter son nouvel album Blue Indigo avec évidemment sa clarinette.
Bah bien sûr, elle est là.
Qui n'a rien à voir avec celle d'Amanda Lear, bien évidemment. Mais c'est vrai que vous avez présenté des émissions avec Amanda.
Chercher la femme.
Exactement. Bah, je parlais de l'Italie, puisqu'on a fait même de l'avion ensemble en allant du côté de Milan, mon cher Christophe. Ouais.
T'es sur la 5 avec Amanda Lear.
Oui.
Comment ça, on a fait de l'avion ensemble?
J'ai souvenir d'un voyage où c'était sur la Côte d'Azur, peut-être, je ne sais plus. En tous les cas, on se connaît bien avec Christophe depuis des années. Et puis le point commun, maintenant, c'est la roue de la fortune que Christophe a repris de main de maître.
Et oui, vous avez tourné. Combien il y en a eu qui ont tourné la roue comme ça alors?
Il y a eu Michel Robb au début. Ah, Michel Robb qui a été un peu pilote d'essai parce qu'il n'a pas voulu rester sur la une. Il a été tenté par la 5.
La porte magique.
Quand TF1 m'a appelé, c'était en 87, avec Jean-Pierre Foucault qui, lui, débutait Sacrée Soirée. Et nous nous sommes retrouvés. Moi, j'ai présenté la roue pendant 5 ans et demi.
Mais évidemment, votre première maison, ça a été ici, Europe 1.
Ah bah oui, il faut quand même le dire. Un bon souvenir.
Combien d'années ici à Europe 1 ?
15 ans.
15 ans.
Avec, nous sommes de la même classe avec Mademoiselle Julie, votre grande amie.
Eh oui.
À Mandalire, on a passé de très très bons mois en Italie. Et moi, j'avais signé qu'un contrat de 6 mois avec la 5 parce que Alain Delon, peut-être qu'on ne l'a pas su beaucoup, devait être le médiateur entre la 5 et le cinéma français, puisque c'était le drame à l'époque, puisqu'on devait interrompre les films avec la pub, c'était dramatique.
Et, oui.
Et puis Alain Delon m'a dit, ça va être trop compliqué, c'est trop politique, ne signe que pour 6 mois, ce que j'ai fait, ce qui fait que je n'ai travaillé qu'en Italie, avec des gens qui chantaient, qui étaient très bien payés.
Et comment ça, la 5, c'était en France ?
Non, on tournait, les premières émissions avec Amanda, on tournait à Milan. Mais le problème, c'était que Berlusconi disait, vous savez, l'esthétique de la télévision, c'est quelque chose de très important.
Il faut pas
avoir les micros devant la bouche, ça casse les visages. Alors, donc on avait 2 micro-cravates, pas de main dans les poches, smoking, pas de petite pochette. Et surtout, C'est là que j'ai appris aussi beaucoup de choses. Maintenant, ça n'existe plus avec le prompteur, mais on apprenait nos textes, pas de fiches dans les mains. Donc on savait pas quoi foutre de nos mains, on se frottait les mains, ce qui a été d'abondantes critiques à cette époque-là. Et puis...
Les Italiens parlent davantage avec les mains aussi, c'est parce qu'il exactement. Avait l'habitude de la télé à l'italienne.
Mais l'émission, l'émission de lancement a été formidable, parce que ça nous a permis de rencontrer des gens extraordinaires.
Mais vous ne jouiez pas de la clarinette à l'époque?
Si, j'ai commencé à l'âge de 13 ans.
Berlusconi aussi d'ailleurs.
Mais ça se savait moins alors.
Si, j'avais joué avec le grand orchestre de la 5 à Milan.
Et vous avez même joué pour un album de Michel Sardou.
Oui, Michel Sardou.
Sur l'album Les Lacs du Connemara.
Exact.
Non, c'est Michel Sardou qui avait chanté sur votre album.
Les Lacs du Connemara.
Et pas la chanson.
Il y a de la clarinette là-dessus.
Pas la chanson Les Lacs du Connemara.
Il y a un thème qui fait...
Préservation.
Préservation.
Voilà, on l'a.
À la Nouvelle-Orléans, un soir marchant dans Bourbon Street. Dans Bourbon Street.
Là, on n'entend pas la clarinette pour l'instant, mais on va l'entendre.
J'ai lu avec stupéfaction, préservation, préservation de...
Vous nous dites quand vous arrivez.
Il a pas son tête.
On doit rendre l'antenne à 18h30.
Je me dépêche.
De vieux musiciens de jazz à la...
Si, elle est là, on l'entend.
Je l'entends pas, moi.
Mais si, elle est là.
Bon, alors le mieux, c'est de prendre un extrait de votre nouvel album, Christian Morin Quartet.
Exactement.
C'est le titre, 11 morceaux, parmi lesquels Mood Indigo. Christian Morin est notre invité d'honneur. Il nous a apporté son nouvel album Blue Indigo et on a entendu Mood Indigo. Quel est le plus
C'était
grand...
la bonne vitesse qu'on a entendu.
Quel est le plus grand clarinettiste?
De Kersauzon, hors antenne, m'a dit est-ce que c'est une marche militaire. Je dis oui, mais après les combats.
Oui, c'est carrément une... Oui.
Quel est le plus grand clarinettiste avec lequel vous ayez joué, Christian Morin?
Le plus grand...
Ou celui pour lequel vous avez le plus d'admiration?
Le plus grand, c'est toujours difficile de dire.
En taille.
Il y a Claude Luther qui était mon idole à l'époque, c'est Saint-Germain-des-Prés, bien sûr. Il y a eu Barney Bigard, le clarinettiste de Duke Ellington et de Louis Armstrong, aux côtés desquels j'ai joué aussi.
Je tiens juste pour les auditeurs à signaler que si Christophe de Chavannes a dit c'était le roi, c'est à cause de Luther King, évidemment.
Bien sûr, bien sûr.
Je ne loupe rien, Christophe.
J'entends, je veux que vous le sachiez.
Luther sans H. Et non,
j'ai moi, je n'étais pas russe.
Non.
Luther russe.
Luther russe, merde.
Tu l'as loupé, celle-là.
C'est dur. Moi, je réécoute des émissions en podcast. J'ai peur d'avoir raté une.
Mais il faut toutes les réécouter deux fois.
Ah, ben bien sûr.
Donc, vous avez mis le doigt dessus.
À part Claude Luther,
mais il y a eu surtout une belle aventure avec l'orchestre de Count Basie avec qui j'ai eu l'occasion de jouer. Et de nombreux musiciens américains qui nous apprenaient quand même à la façon de se comporter. Et j'ai eu beaucoup de chance, je crois. Mais il y a eu un parallèle avec les beaux-arts, la clarinette, la radio, la télévision.
Oui, parce que vous avez commencé comme dessinateur
humoristique. C'est mon métier, j'y tiens. Parce que je suis...
Vous dessinez dans lui.
J'ai fait deux ou trois dessins dans lui au moment où j'ai rencontré Julie. Et j'ai travaillé pour le journal Sud-Ouest aussi, comme dessinateur humoriste. Et j'ai même quelques dessins croisés avec mon ami Cabu et avec Sampé lors d'une émission de jazz qui a été faite ici.
Et je dois expliquer tout de même, cher Christian Morin, que le deuxième indice, Annie Cordy, c'était évidemment... Parce que vous avez partagé la scène à plusieurs reprises au théâtre et en comédie musicale.
C'était au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Nini Lachance, c'était ?
C'était non, Envoyez la musique.
Ah, Envoyez la musique.
Ah, c'est une femme formidable.
Et vous avez joué Lily et Lily aussi
nous.
Avec elle.
Lily et Lily, la pièce théâtre. Qui avait été créée par Jacqueline Maillan.
Donc, quand même, heureux pas et heureux de recevoir toujours dans ses murs Christian Morin, qui a été la voix, une des voix mythiques de cette station.
Qui est surtout un multigapète, visiblement.
Ah, ben tiens, c'est dur de tourner la roue. Est-ce que Christophe le fait bien alors?
Ah, mais j'ai trouvé que Christophe. D'abord, esthétiquement, la roue a complètement changé de décor
Christophe
au moment
où
Christophe a pris la.
Christophe, est-ce qu'il arrive que la roue pète?
Non.
Spéciale dédicace.
Non, celle-là, elle est nulle, là, quand même, mais je l'aime bien, quand même.
Et est-ce que la roue tourne, va tourner?
Non, il a bien. Je l'ai dit à ce moment-là.
Mais c'est fini, c'est fini depuis longtemps.
Mais je sais bien, mais enfin, c'était quand même pas mal. Avec...
Ah oui, c'était rigolo.
Il faut dire aussi qu'on vous voit de plus en plus comme comédien. On vous a vu dans Plus belle la vie,
ah,
pendant
oui, dans Plus belle la vie.
Un long moment.
Là, je viens de tourner avec Pascal Thomas pour
souvent, vous tournez
film.
Avec Pascal
oui,
Thomas.
Oui, Pascal a fait appel à moi deux ou trois fois déjà, et je viens de tourner avec des gens que vous connaissez bien, que vous aimez bien, François Morel, Marie Harry Gillin, Géraldine Chaplin, notamment, entre autres, dans la distribution. Marie-Lou Berry, pour un film qui va sortir au mois de janvier, qui s'appelle La maison du listigré, inspiré d'un polar anglais.
Cette voix est quand même très particulière. Ouais. J'imagine que tous les auditeurs d'Europe 1, de l'histoire d'Europe 1, doivent tilter, parce que c'est comme un parfum, une voix. C'est quelque chose de... C'est une Madeleine, un petit peu. Et cette voix-là, au micro, elle est très particulière.
Mais on l'entend. Vous avez passé une bonne soirée, tous les deux, hein, parce que...
Quoi ?
Il va te faire un dessin, sa voix est quand même un parfum.
Si jamais vous mettez la musique de Clarinette, ça va pécho.
Ça va démarrer par un slow. Hein.
Ah oui. On va peut-être représenter la roue de la fortune ensemble, si tu veux.
Qui est-ce qui va tourner les lettres?
Je sens que la banqueroute va arriver très vite, je ne sais pas pourquoi.
Comme disait ma mère, c'est clarinette comme torchette.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que c'est clarinette.
Vous ne connaissiez pas cette expression?
Alors, mais c'est encore un truc de ta famille, ça.
Si, c'est une expression très connue, c'est clarinette.
C'est clarinette, oui. Au Havre, tous les gens du Havre parlent comme ça le matin.
C'est clarinette comme torchette, vous ne connaissez pas ça?
C'est torchette que je ne connaissais pas, mais c'est clarinette, oui.
J'en entends ça sur beaucoup les... Les pilotes du Havre, quand ils manœuvrent des 350 000 tonnes, c'est clarinette comme torchette, quand même.
Mais bien sûr. Et je suis sûr que je vais recevoir des tas de mails qui me confirment que c'est clarinette comme torchette.
Comme spaghetti, ça. C'est...
Oui. Mais je vous jure.
Quoi, spaghetti?
Christian Morin, à ne pas confondre, car souvent on vous a confondu. Je parle du nom avec Christian Marin.
Le comédien
qui n'est plus hélas.
Qui était un type formidable, très gentil.
Qui jouait la verdure.
Qui jouait la verdure dans Tanguy et la verdure. Christian Morin, c'est Europe 1, c'est aussi TF1, mais c'est surtout la clarinette, un nouvel album, Art Quartet. Et évidemment, le titre, c'est Blue Indigo. Merci, Christian Morin.
Et alors, je tiens à vous dire qu'on va prolonger ce disque avec un spectacle le 29 septembre au Théâtre des Variétés.
Mais que ne me dites-vous plus tôt ?
Concert.
À la rentrée au Théâtre des Variétés, Christian Morin avec sa clarinette.
Le lundi, jour de repos de votre camarade Isabelle Mergault, qui elle va jouer Ouhou.
Ah oui, et ce sera clarinette comme torchette. Christian Morin était notre invité d'honneur.
Merci Laurent.